Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Sébastien Krebs.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est votre grand journal du soir qui commence sur Europe 1. Nathalie Lévy s'est absentée aujourd'hui, mais on va vous accompagner avec Anissa qui est là. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Sébastien, bonsoir
et
à tous.
Et avec Isabelle Millet pour le journal
bonsoir, Sébastien.
Complet dans un instant. Bonsoir Isabelle, 2 heures d'information, d'analyse et de débat jusqu'à 20h. Ce soir, on voulait s'arrêter sur la grosse colère des profs en Seine-Saint-Denis au Lila après la mort d'un adolescent poignardé. On vous en parlait dès vendredi sur Europe 1. Les violences entre bandes rivales qui s'invitent jusqu'aux abords des établissements scolaires. Les profs exercent leur droit de retrait depuis 3 jours maintenant. L'un d'eux témoigne ce soir. Gabriel Latanzio nous rejoint en studio dans 20 minutes. À la une également les suites bien sûr de l'enquête après l'attaque de la préfecture de police de Paris et de nouveaux éléments à suivre autour de cette fameuse clé USB retrouvée dans le bureau de l'assaillant. On en débattra aussi avec les grandes voix et on en parle avec l'invité politique ce soir à 19h10, Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement National. Toute l'info jusqu'à 20h, soyez les bienvenus sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Il a levé son fusil et il a tiré au moins une fois. L'homme derrière moi semblait mort.
Un témoin de l'attaque qui a eu lieu à la mi-journée dans la commune de Halle en Allemagne. Au moins 2 personnes tuées, d'autres blessées. Attaque qui visait en plein Kippour, la fête juive, une synagogue, puis un restaurant turc.
Nous serons en Allemagne dès le début de ce journal avec la correspondante d'Europe 1, Hélène Kohl.
Les enquêteurs ont fait parler la clé USB retrouvée dans le bureau du tueur de la préfecture de police de Paris. Elle n'a jamais été connectée à des ordinateurs suspects, nous dira Alain Acco. Et on sera également en ligne avec un représentant du syndicat de police Alliance qui a été reçu par le préfet aujourd'hui. Il nous dira quelles sont les consignes qui ont été données pour éviter à l'avenir de tels drames.
La manifestation prévue demain à Gonesse, dans la ville du tueur de la préfecture de police, n'aura pas lieu. Christophe Castaner l'a interdite.
Et plusieurs voix, à droite notamment, s'élèvent pour demander que l'instigateur de cette manifestation soit traduit en justice.
En Seine-Saint-Denis, je vous le disais, après le meurtre d'un lycéen au Lila la semaine dernière, l'inquiétude des enseignants et des parents d'élèves.
Ils sont complètement traumatisés au collège.
On est tous morts de trouille.
Les profs de plusieurs établissements ont fait valoir une nouvelle fois aujourd'hui leur droit de retrait.
C'est ce qu'on redoutait depuis l'annonce du retrait américain de Syrie.
Les Turcs ont lancé l'offensive aujourd'hui contre les Kurdes. Il y a déjà des morts. La France pourra-t-elle jouer son match de Coupe du Monde samedi contre les Anglais? C'est du rugby. Les organisateurs en tout cas scrutent le ciel avec inquiétude et préparent un plan B au cas où, avant l'arrivée sur le Japon d'un redoutable typhon.
Et puis la folie, Céline Dion, 5-4-3-2-1-0. Les places de son concert se sont arrachées en quelques minutes. 9 minutes précisément ce matin.
J'ai pas dormi en fait, je suis restée réveillée jusqu'à 10h pour les places. Je suis vraiment super déçue.
Et oui, c'est triste, il n'y en avait pas pour tout le monde. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,78% à 5499 points.
La tendance météo, Anissa.
Eh bien, bonne nouvelle, le soleil est de retour demain par l'ouest. Encore quelques averses sont possibles dans certaines régions, je vous détaille tout à la fin du journal.
Europe 1.
Et on va donc tout de suite, Isabelle, partir à Halle, dans l'est de l'Allemagne.
Halle, théâtre d'une fusillade à la mi-journée, à proximité d'une synagogue. Et ce n'est pas anodin, c'est aujourd'hui une fête très importante pour les Juifs, Yom Kippour. Une synagogue donc prise pour cible, puis un kebab. Et tout, écoutez Konrad, c'est un client du restaurant qui a été visé.
L'homme s'est approché du vendeur de kebab. J'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas parce qu'il portait un casque et il avait un fusil d'assaut. Et puis il a lancé quelque chose. Ça ressemblait à une grenade. Elle s'est écrasée sur la porte. Elle n'a pas explosé dans le magasin. Alors, il a levé son fusil et il a tiré, au moins une fois. Évidemment, moi et les autres clients, nous avons commencé à courir. Je pense qu'on était 5 ou 6 à l'intérieur. L'homme derrière moi semblait mort. Je suis allé me cacher dans les toilettes et je me suis enfermé. J'ai écrit à ma famille pour leur dire que je les aimais.
Hélène Kohl, vous êtes notre correspondant en Allemagne, vous êtes sur place à Halle, où vous avez recueilli ce témoignage, vous êtes entre ce restaurant turc et la synagogue, là où ont eu lieu ces deux fusillades et où la population est encore confinée ce soir.
Oui, c'est un centre-ville complètement bouclé par les forces de l'ordre ici. La police fédérale a envoyé sur place tous les effectifs dont elle dispose dans la région. Il y a des barrages sur l'autoroute en amont de la ville, des hélicoptères, des contrôles d'identité, car les auteurs de ces fusillades sont encore en fuite et ils sont lourdement armés. L'un d'entre eux a pu être arrêté en milieu d'après-midi, mais la police confirme qu'il n'a pas agi tout seul. La police parle ce soir de 2 à 4 hommes dans cette attaque. Une attaque en deux temps. D'abord, une attaque contre la communauté juive de la ville. Une grenade a été lancée contre le cimetière juif. Puis les hommes ont essayé en vain de pénétrer dans la salle où se tenait la cérémonie religieuse du Yom Kippour. À ce moment-là, il y avait 70 personnes dans ce bâtiment. Il y a eu au moins une dizaine de coups de feu tirés à l'extérieur. Une passante a pris une balle et elle est morte sur le coup. Et puis quelques minutes plus tard, dans un second temps, même mode opératoire, à une centaine de mètres de là, une grenade, puis une fusillade, cette fois contre ce restaurant de Doner Kebab. Là aussi, une victime et 2 autres blessés graves.
Hélène, vous disiez qu'il y a déjà eu une arrestation. Que sait-on pour l'instant, en tout cas, du profil des assaillants ?
Alors, la police, pour l'instant, ne donne absolument aucune information, mais plusieurs documents vidéo confirmés montrent qu'au moins l'un des assaillants porte une tenue militaire, une veste kaki et un casque en métal, comme celui des soldats nazis de la Wehrmacht. Il est visiblement très à l'aise avec le maniement des armes automatiques, il a des grenades avec lui. Alors ce n'est pas un acte improvisé, il a été soigneusement préparé, dit le représentant du plus grand syndicat de la police ce soir. Le parquet fédéral allemand a ouvert une enquête, il parle lui d'un acte politique, d'après plusieurs sources en interne dans les services de police, des sources qui ne sont pas pour l'instant officielles, on parle clairement d'un acte d'extrême droite.
Merci beaucoup Hélène Kohl, vous étiez donc en direct pour Europe 1, en direct de cette ville de Halle en Allemagne.
Il est 18h05 sur Europe 1, la suite du journal Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
Et l'enquête à présent sur la tuerie de la préfecture de police de Paris et cette clé USB retrouvée dans le bureau de Michael Harpon dont le contenu suscitait inquiétude et spéculation.
Bonsoir Alain Acco. Bonsoir. Chef du service police-justice d'Europe 1. Alain, vous nous disiez hier soir à cette heure-ci que plus de 160 enquêteurs de la brigade criminelle étaient mobilisés sur cette clé USB. Et ce que vous pouvez nous dire ce soir Alain, c'est qu'il n'y a pas eu a priori de fuite majeure.
Oui, pour ce qui concerne cette clé USB en tout cas, les experts informatiques de la PJ parisienne n'ont pas trouvé trace d'une fuite, qu'elle soit majeure ou mineure. Les experts n'ont pas constaté un quelconque transfert illicite de données, ni dans un sens, ni dans l'autre. En clair, cela signifie que les vidéos de propagande de l'État islamique qui ont été retrouvées sur cette clé n'ont pas été téléchargées par Michael Harpon sur un site internet. Elles proviennent bien des ordinateurs de la direction du renseignement dont il assurait la maintenance en utilisant cette clé de travail. Cela signifie surtout, et c'est sans doute là le plus important, en tout cas pour les policiers parisiens, que cette clé USB n'a pas été connectée à d'autres ordinateurs que ceux de la préfecture. Elle n'a pas été branchée, par exemple, à l'ordinateur personnel du tueur qui a été saisi chez lui à Gonesse. Cela signifie donc, à ce stade des investigations, que le contenu de cette clé USB, et notamment les noms et adresses des fonctionnaires de la direction du renseignement, n'ont pas fuité à l'extérieur.
Merci Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1.
Et c'est notre coup de fil du 18h ce soir. Nous sommes en ligne avec Loïc Travers. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale. On entend ces nouveaux éléments sur la clé USB donc qui ne serait pas finalement sortie des locaux de la préfecture de police, qui n'aurait pas été connectée à un autre ordinateur. C'est une forme de soulagement pour vous ce soir, j'imagine.
Alors, si vos propos sont vrais, oui, c'est un soulagement, mais il n'y a eu aucune communication à l'occasion de la réunion, dans un sens ou dans un autre, permettant de prendre les bonnes mesures. Donc je ne me prononcerai pas, je n'ai pas la certitude de ce que vous dites.
Vous n'avez pas de confirmation, en tout cas vous sortez donc d'une réunion avec le préfet de police de Paris qui vous a notamment rappelé, je crois, les consignes de sécurité afin d'éviter que tels drames ne se reproduisent. Quelles sont ces consignes ?
Oui, les consignes de sécurité nous ont effectivement rappelé, notamment dans le cadre d'un attentat, le principe du confinement dans les bureaux, règle élémentaire qui aussi est applicable à des citoyens.
L'idée, c'est de mieux détecter aussi les cas de radicalisation, mieux les faire remonter. Est-ce qu'il y a eu des consignes en ce sens ?
Oui, des consignes extrêmement fermes du préfet de police qui clairement s'inscrit dans une lutte contre le radicalisme. Il faut agir avec discernement, mais dans le cadre d'une procédure interne qui reste à établir. Et nous avons notamment proposé qu'il y ait l'anonymisation partielle afin d'identifier les signaux faibles de collègues qui seraient dangereux.
Dénoncer, mais de façon anonyme pour éviter les règlements de compte ?
De façon anonyme, de façon partielle, c'est-à-dire que le principe, c'est oui à l'identification des signaux faibles, mais avec un contrôle, soit d'un service spécialisé ou de la hiérarchie, pour qu'il n'y ait pas de dérive.
Comment on fait pour que ça ne devienne pas la suspicion absolue dans les bureaux de la police et ailleurs d'ailleurs ?
Eh bien, c'est justement le contrôle par un service spécialisé ou par la hiérarchie de la personne qui pourrait procéder à cette identification. Eh bien, elle aurait des comptes à rendre si jamais elle était simplement là pour se faire plaisir et dénoncer de façon calomnieuse.
Quelle est l'atmosphère aujourd'hui ?
L'atmosphère, elle est forcément à la suspicion. Vous pensez bien que quand le danger vient de l'intérieur et non plus de l'extérieur, comme ça nous avait été habitué, que ce soit en France ou en Europe, eh bien c'est une vraie difficulté pour nous. Il faut pouvoir vivre avec ça.
Merci beaucoup Loïc Travers, secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale, d'avoir été l'invité ce soir du journal de 18h sur Europe 1.
Et puis il y a cet appel à se rassembler qui a déclenché la colère des policiers et qui a mis le feu à la classe politique ce matin. Appel à se rassembler à Gonesse. Demain, cette manifestation, Isabelle, donc, va être interdite finalement.
Oui, dès ce matin, le ministre de l'Intérieur a coupé court à la polémique. Alors, ça n'était pas à proprement parler un rassemblement en soutien aux tueurs de la préfecture de police, mais ça fait quand même polémique. À l'initiative de cette manifestation, un ancien candidat des banlieues aux élections européennes, Adama Traoré, qui condamne le parcours meurtrier de Michael Harpon, mais qui dit aussi que le tueur n'est pas un terroriste, qu'il a fini par craquer parce qu'il était discriminé dans son travail, mis à l'écart en raison de sa surdité. Ce n'est pas l'œuvre, dit-il, d'un extrémiste religieux.
Cette manifestation serait une infamie et une insulte à la mémoire des policiers tués. Voilà ce qu'a dit Christophe Castaner, qui donc, après quelques tergiversations, a décidé de l'interdire.
Et la députée Les Républicains Valérie Boyer, comme beaucoup d'autres d'ailleurs au sein de la droite, estime ce soir qu'Adama Traoré doit être traduit en justice.
Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, non seulement interdire cette manifestation, mais punir les personnes, des poursuites pénales pour les personnes qui font l'apologie du terrorisme, parce qu'il s'agit d'apologie du terrorisme et d'une chose encore plus perverse, de minimisation aussi des faits et de trouver des excuses aux faits. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement choquant. J'espère, parce que ce n'était pas le cas ce matin, que les comptes ont été fermés, les comptes Twitter et les comptes Facebook où des vidéos circulaient. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter de se payer de mots, d'arrêter de faire de la communication. Si on dit stop, si on ne cède pas sans arrêt aux provocations multiples, ben je pense que ça cessera.
Valérie Boyer, la députée Les Républicains, au micro Europe 1 d'Adrien Beck. On en reparle avec les grandes voix à 18h30 sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
Et à suivre dans votre journal, la mobilisation des enseignants qui s'amplifie au Lila en banlieue parisienne après la mort d'un adolescent de 15 ans.
Et puis ça y est, la Turquie a lancé une opération militaire contre les Kurdes en Irak, en Syrie.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 18h12 sur Europe 1, la suite du journal Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
C'est la troisième journée consécutive que les enseignants du collège Marie Curie des Lilas près de Paris exercent leur droit de retrait suite au meurtre d'un lycéen de 15 ans la semaine dernière.
Oui, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Ils ont en effet été rejoints aujourd'hui par les profs des établissements voisins et par les parents aussi qui sont forcément très inquiets par ce climat d'insécurité permanent. Réunion édifiante cet après-midi à la mairie des Lilas. Écoutez le reportage de Jean-Gabriel Bourgeois.
Ils ont enterré leurs élèves et la voix encore nouée, cette enseignante ne se remet pas de cette violence incessante. Alors profs, parents, élus et élèves vident leurs sacs, comme ce papa qui implore une prise de conscience et des mesures.
Le matin, on lâche nos gosses. Le vendredi après-midi, notre fille rentre en chialant. Ils sont complètement traumatisés au collège.
En octobre dernier, enfin 2018, il s'est déjà passé ça. Donc non seulement on n'anticipe pas, mais ça veut dire que maintenant on ne réagit même plus. On est tous morts de trouille.
La crainte de représailles dans ces quartiers, les élèves comme Julia la vivent au quotidien.
On entend énormément de rumeurs, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a un climat où on se demande quand est-ce que ça va se passer. On a envie d'arrêter de voir nos amis pleurer parce qu'ils perdent des personnes proches.
Après plusieurs jours de pression, ils ont enfin obtenu une audience au rectorat. Une marche blanche aura lieu ce week-end en mémoire de l'adolescent tué vendredi dernier.
Voilà, on entend l'émotion sur place dans ce reportage signé Jean-Gabriel Bourgeois au Lila près de Paris. On en reparle dans un instant juste après le journal. Mon invité sera l'un des profs des Lilas, Gabriel Latanzio. Il est prof d'anglais au lycée Paul Robert. Il nous rejoint dans ce studio juste après le journal.
Et puis notez que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sera demain matin l'invité de Sonia Mabrouk à 8h20 sur Europe 1. C'est ce que la communauté internationale redoutait depuis l'annonce par Donald Trump du retrait des forces américaines de Syrie. Les Turcs ont lancé cet après-midi les premières frappes aériennes au nord de la Syrie. Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Didier, les préparatifs militaires des derniers jours et le retrait américain laissaient peu de place au doute.
Oui, effectivement, le flottement américain, enfin celui de Donald Trump en tout cas, a été déterminant pour convaincre le président turc qu'il avait bien l'opportunité d'agir. Il l'a fait sans attendre. Les bombardements ont effectivement commencé à 16h cet après-midi sur les principales bourgades kurdes qui bordent la frontière turque au nord de la Syrie. Alors ces frappes laissent entrevoir un front d'une longueur d'environ 120 km avec deux axes principaux pour l'offensive terrestre qui se dessine et qui devrait être lancée dans la soirée. L'armée turque a massé ses troupes face aux localités de Tal Abyad et de Ras Al-Ain, qui sont les deux villes évacuées lundi matin par les soldats américains et où il faut s'attendre à de très violents combats dans les heures à venir. D'autant que les militaires turcs ont mobilisé un nombre considérable de miliciens syriens pour appuyer leur offensive. Environ 18 000 supplétifs de différents groupes islamistes, dont ceux de la branche syrienne d'Al-Qaïda, parce que le gouvernement turc leur a promis qu'ils pourraient s'installer avec leur famille dans tous les territoires pris aux Kurdes. C'est l'un des objectifs d'Ankara, créer d'abord une zone tampon entre sa frontière et les territoires kurdes de Syrie, puis y reloger les réfugiés syriens aujourd'hui installés dans des camps en Turquie. Et c'est évidemment cette étrange collusion qui inquiète terriblement les Européens, mais également la Russie et l'Iran, qui ont aussi condamné cette intervention turque en Syrie.
Merci beaucoup Didier François. Et ce soir, l'ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui rapporte que des milliers de personnes sont en train de fuir les raids turcs à la frontière. Didier François, spécialiste des questions internationales.
Une réunion d'urgence se tiendra demain du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce sujet. Au Japon, vous savez que se tiennent en ce moment les championnats du monde de rugby et on devrait normalement assister samedi théoriquement au choc entre la France et l'Angleterre. Sauf qu'un typhon redoutable s'annonce et pourrait venir jouer les troubles faits. Le match pourrait être soit délocalisé ou bien purement et simplement annulé. Dans ce cas-là, chaque équipe aurait 2 points et du coup, on n'aurait pas affronté les Anglais.
Voilà, et on va terminer avec une petite note de musique parce que c'est du jamais vu pour le Festival des Vieilles Charrues qu'on aime beaucoup sur Europe 1 puisqu'on est partenaire. Le Festival des Vieilles Charrues n'avait jamais vendu ses billets aussi vite qu'aujourd'hui. 9 minutes pour 55 000 billets. Pourquoi ? Parce que Céline Dion arrive.
Merci Céline Dion. La chanteuse qui se produira donc le 16 juillet à Carré dans le plus grand festival d'Europe, on le rappelle. Les connexions internet ont explosé, hein. C'était de la folie. Autant vous dire que ceux qui ont réussi à obtenir leur billet, ils sont plutôt heureux ce soir.
Je me suis levé à 8h quand même. Par contre, ça a été saturé très rapidement. J'ai dû attendre plus de 45 minutes. Par contre, je suis super content. Vraiment, c'est un soulagement. Genre, j'attendais depuis tellement longtemps.
Voilà, des billets sold out en 9 minutes. Certains sont arrivés trop tard malheureusement et c'est dur. Franchement, c'est très dur.
Je suis déçue, mais je peux même pas expliquer en fait, je suis vraiment super déçue. On attend pendant des heures et des heures et puis au final il n'y a rien du tout quoi. J'ai pas dormi en fait, parce que je travaille de nuit, du coup je suis rentrée à 6h du matin du travail et je suis restée réveillée jusqu'à 10h pour les places.
Et tout ça pour Céline Dion, au micro des fans, au micro européen d'Angèle Châtelier.
Ouais, Céline Dion qui a rajouté des dates à Paris hein, par ailleurs. Merci beaucoup, c'était le journal d'Isabelle Millet, on vous retrouve à 18h30 pour... Le rappel des titres à tout à l'heure. Anissa, la météo avec un temps un peu plus calme qui s'annonce demain.
Je vous l'avais promis, hein, je vous avais dit ça s'arrange à partir de jeudi après-midi. Promesse tenue effectivement Sébastien. Le soleil est de retour par l'ouest demain. Du Cotentin à l'Île-de-France en passant par les pays de la Loire et la Bretagne. Le temps reste sec demain avec quelques belles éclaircies même, hein, surtout demain après-midi. Sur les frontières du nord-est et le massif central, là le ciel est un peu plus couvert et il pourrait vous apporter quelques gouttes. Partout ailleurs, le temps redevient sec, ensoleillé. Sur le bassin méditerranéen, la Corse et les côtes de la Manche, là c'est le vent qui se lève et il souffle fort. Demain, attention, avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Les températures, 8 à 11 degrés le matin sur une grande partie du pays, c'est assez homogène. 8 à Saint-Etienne, 10 à Nîmes, 11 à Paris. Et demain après-midi, il va faire doux dans le sud, sous le soleil. 25 à Bastia et Montpellier, 23 à Nice, 21 à Bordeaux, 18 à Brest, Auxerre et Paris et un peu plus frais pour Aurillac avec 15 degrés.
Europe 1.
Dans un instant, dans votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
On vient de l'entendre dans le journal, toujours l'inquiétude des enseignants et des parents d'élèves en Seine-Saint-Denis après le meurtre d'un lycéen au Lila. Je reçois dans 2 minutes un professeur d'anglais de ce lycée Paul Robert au Lila. Gabriel Latanzio s'installe dans ce studio. A tout de suite.
Votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Sébastien Krebs, avec un témoignage ce soir, celui d'un enseignant confronté à la violence en Seine-Saint-Denis. Il refuse de redonner cours. Vous recevez Gabriel Latanzio, professeur d'anglais au lycée Paul Robert des Lilas.
Bonsoir Gabriel Latanzio.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Les Lilas, c'est donc tout près de Paris. Les enseignants de 2 établissements, dont le vôtre, sont toujours mobilisés. Vous exercez votre droit de retraite depuis 3 jours maintenant, depuis la mort d'un élève, un lycéen de 15 ans, poignardé vendredi en marge d'un cours de sport. On l'avait raconté ici même. Trois jours sans cours. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Quel est le message de cette action?
Le message de cette action, déjà, c'est particulier. On exerce un droit de retrait. C'est quelque chose qu'on fait quand il y a un danger. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'éducation. C'est avant tout de sécurité de la jeunesse dont j'ai envie de vous parler. La violence à laquelle nous faisons face est réelle, sérieuse. Elle commence vendredi. Je suis assez convaincu que c'est en se représentant les choses qu'on peut avoir les bonnes actions. Et comme j'ai envie que les choses changent, j'ai envie de vous raconter fidèlement, du point de vue d'un enseignant ou d'un élève, ce qui s'est passé au sein du lycée. À 11h, un élève ensanglanté rentre dans l'enceinte de l'établissement pour se réfugier d'une rixe auquel il aurait participé. Les rumeurs enflent. 30, 40 minutes plus tard, la police passe, cherche d'éventuels suspects. Les choses ne sont pas éclaircies, les élèves parlent entre eux, ils sont tout de suite au courant davantage que nous-mêmes, et on apprend qu'il y aurait un mort. Ensuite, on apprend que notre collègue de PS était présent, qu'il a fait ce qu'il a pu pour sauver ce jeune homme, et qu'il n'y aurait pas réussi. On finit par confirmer la rumeur, on voit le collègue qui rentre au travail, dans un état que je ne préfère pas décrire, et on prend la mesure de ce qui se passe. Et la réalité d'un établissement scolaire aujourd'hui ne devrait pas être celle-là. Les conséquences sont multiples pour ceux qui ont vu, pour ceux qui ont vécu, pour la famille d'abord de la victime, pour la victime. Ce que l'on dit en étant en retrait de notre travail depuis lundi, c'est que nous ne croyons pas que notre public, ni nous-mêmes, ne sommes en sécurité. C'est vraiment ça d'abord. Et après, effectivement, je pense qu'il faut agir.
C'est le troisième drame en moins d'un an, si je ne me trompe pas. Hein. Et à chaque fois, c'était des victimes de cette guerre des bandes. Un jeune de 20 ans en juillet à Romainville, un adolescent de 13 ans à Bagnolet en octobre de l'année dernière. On a l'impression que c'est presque à chaque fois la même histoire. Ouais. Il ne s'est rien passé depuis ces drames précédents?
Au Lila deux fois, un jeune venant du Pré-Saint-Gervais deux fois, dans cette dernière année, vous avez raison pour cet été. C'est ce qui est le plus terrible, c'est que l'année dernière, en octobre, nous avions déjà une immense tristesse, émotion, peine. Il y a tellement d'émotions que j'aimerais vous raconter en ce temps qu'on est ensemble. Mais lorsque ce jeune homme est mort, l'année dernière, nous avons essayé d'accompagner en faisant un peu de psychologie, autant qu'on peut en faire avec les jeunes. On essaie d'être là pour eux, d'être des adultes présents. Comme le problème se répète et de façon si dramatique, on a l'impression que ça ne suffit plus. On ne veut plus être dans le traitement immédiat du soulagement de la peine de ceux qui sont là. Et bien sûr, moi, je veux toujours le faire et je reste à la disposition de mes élèves, tout comme la plupart de mes collègues, évidemment, comme tous mes collègues, pardon. Mais ça ne suffit plus. On ne veut pas simplement le petit pansement a posteriori. On veut réfléchir a priori à des solutions d'ampleur pour cette jeunesse qui mérite bien mieux que de vivre des expériences pareilles. Et les dangers sont encore réels aujourd'hui, bien sûr.
Qu'est-ce qui mine le climat en Seine-Saint-Denis? C'est les trafics de drogue ou c'est simplement des rivalités entre différentes cités qui, on l'a vu hein, dans cette affaire, les trois suspects qui ont été arrêtés ont 14 ou 15 ans. Ils sont extrêmement jeunes.
C'est très très jeune. Je peux vous donner un témoignage de terrain. Je ne me permettrai pas d'être ni sociologue ni enquêteur de la police. Cela étant dit, je suis simplement un délégué syndical hein, qui enseigne au jour le jour avec ce public. Et pour l'essentiel, ce sont des jeunes gens merveilleux. Hein. Même, franchement, cette jeunesse, elle a des qualités insoupçonnées. Cependant, ce qu'on voit, c'est une banalisation des rivalités territoriales entre jeunes issus de ces différentes villes. Ils se racontent des histoires. Lors de la Coupe du Monde, il n'y a pas si longtemps, ils ont tous célébré quand Kylian Mbappé marquait un but, quand Benjamin Pavard marquait un but. Sitôt cela finit, ils sont avant tout quelqu'un du Pré, ils sont avant tout quelqu'un des Lilas, avant tout quelqu'un de telle ou telle ville. C'est dramatique. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de vivre ensemble. Les rencontres sportives sont compliquées. Quand ils viennent d'une ville plutôt que d'une autre, ils ne se parlent pas. Il n'y a pas de sens de la solidarité dans cette jeunesse. Mais cela, ce n'est pas simplement le fait de la jeunesse ou d'évolution culturelle ou des réseaux sociaux. Les raisons sont multiples, il y en a plein. Et je ne me permettrai pas ici de dire « j'ai trouvé la solution ». Ni moi, ni les camarades dont je porte la parole, ni les familles.
Par contre, qu'on retrouve des couteaux dans les buissons qui sont attenants à la cour de récréation. Vous êtes professeur d'anglais dans ce lycée. Ouais. Comment on enseigne dans ce climat? Comment on essaye de faire son travail correctement?
La plupart du temps, plutôt bien, j'espère. C'est les élèves qui le diraient. Mais on y arrive dans l'ensemble. Franchement, j'ai eu la chance d'enseigner dans différents établissements, dans le supérieur pendant un certain temps, maintenant dans le secondaire, à Vincennes, etc. Les élèves que j'ai la chance de fréquenter aujourd'hui, et j'espère leur apporter un peu de choses, ont énormément de qualité. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'expérience que ces jeunes ont au quotidien n'est pas la même. Aujourd'hui, j'ai peur pour leur vie. Dans un climat où on a peur pour leur vie, on n'étudie pas aussi bien qu'au centre de Paris. C'est certain. Et c'est grave. Alors, voilà. Bon.
Vous disiez tout à l'heure, il faut agir. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je vous propose une chose ce soir. Adressez-vous au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il sera à votre place, ici même, demain matin à 8h15. Il sera l'invité d'Europe 1. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir?
Écoutez, je vais me faire le relais de la question que les parents posent. Si je dois être la voix de mon administration, auprès de mon public que je sers, qu'est-ce que je réponds aux familles qui me disent combien de morts de jeunes causées par des jeunes avant que l'État réagisse de façon sérieuse? Je ne sais pas quoi répondre à cela. En tout cas, moi, j'agis pour que les choses changent très vite. Et je ne veux pas passer très longtemps à supplier pour d'éventuelles audiences, discussions, comités, etc. Pour moi, la réponse, elle doit être... Pour moi et mon syndicat, la réponse, elle doit être...
Elle est sécuritaire. Il faut des policiers devant les installations sportives des collèges et des lycées, devant les établissements scolaires.
Alors, encore une fois, les tâches de police, je ne les commenterai pas, je ne les commenterai jamais. Ce que je pense, en revanche, c'est que ça va être porté au débat. Moi, en tant qu'éducateur, ce que je sais, c'est que notre jeunesse, elle est peut-être un peu moins belle et elle se sent peut-être davantage abandonnée. Quand dans le budget français, si l'on prend le PIB, je sais que pour l'éducation, il y a une trentaine d'années, on mettait pour 100%, enfin pour 100 francs, on dépensait 7 francs 70 environ. Aujourd'hui, on dépense pour 100 euros, on dépense 6,40 euros. Bah, quand on dépense un peu moins dans l'éducation, peut-être que cette jeunesse, certains membres de cette jeunesse commettent l'innommable. En tout cas, moi, j'appelle de mes voeux et pour d'autres avec moi, à replacer l'école au centre de notre société. L'école, c'est quand même le signe qu'une société va bien. Quand une société progresse, eh bien, il faut mettre davantage dans son école, davantage dans sa jeunesse. Je pense que c'est le meilleur des investissements aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci Gabriel Latanzio d'être venu témoigner ce soir en studio. Je rappelle que vous êtes professeur d'anglais au lycée Paul Robert. Au Lula, vous êtes aussi délégué SNES FSU. Merci d'être venu ce soir. Bonne soirée à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
Votre grand journal du soir à suivre, Sébastien Krebs.
Avec dans un instant les grandes voix qui s'installeront dans ce studio Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon. Revient notamment sur l'enquête après l'attaque de la préfecture de police de Paris. Et vous aurez bien sûr la parole au 39-21.
À votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec vous, Sébastien Krebs.
Et le rappel de l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Millet.
Et en Allemagne, deux morts dans une fusillade en pleine rue à Halle, près d'une synagogue en ce jour de Kippour, grande fête juive. Les tireurs s'en sont également pris un restaurant kebab. L'un d'eux a été arrêté, les autres sont toujours en fuite. Certains affirment qu'ils portaient des tenues d'officiers de la Wehrmacht. La population est longtemps restée confinée, mais l'alerte est désormais levée. Angela Merkel ce soir parle d'un attentat. La Turquie a lancé son offensive dans le nord-est de la Syrie contre les Kurdes. Offensive rendue possible par le retrait des troupes américaines. Réunion d'urgence demain du Conseil de sécurité de l'ONU. La riposte médiatique des deux imams de Gonesse, dont le tueur de la préfecture de police de Paris, Mickaël Harpon, fréquentait la mosquée. Tous deux mis en cause dans son processus de radicalisation. Ils se sont de nouveau désolidarisés du terroriste et de la manifestation qui devait avoir lieu demain à Gonesse mais qui a été interdite par le ministère de l'Intérieur. La facture de plus en plus lourde pour l'EPR de Flamanville. Il coûtera 1,5 milliard d'euros de plus que prévu en raison de problèmes au niveau des soudures. L'EPR qui ne devrait pas être livré avant la fin 2022. Et puis elles sont parties en 9 minutes seulement. Les 55 000 places pour le concert de Céline Dion cet été au Festival des Vieilles Charrues.
Le journal complet d'Isabelle Millet, c'est à suivre à 19h. À tout à l'heure.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Un coup d'œil au temps, Anissa, on va pouvoir ranger les parapluies ?
Oui, au moins jusqu'à lundi. Ah. Vous emballez pas,
c'est
Sébastien.
Déjà une bonne nouvelle.
Au moins jusqu'à lundi, avec même un week-end estival. Les températures vont grimper ce week-end, on aura l'occasion d'en reparler sur Europe 1. Pour demain, en tout cas, une chose est sûre, le soleil est de retour. D'abord par l'ouest, il arrive sur la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, les Pays de la Loire. Là, la journée sera très ensoleillée, surtout l'après-midi. C'est sur le nord, les frontières de l'Est et le Massif central, que vous aurez peut-être droit à encore quelques gouttes demain, mais rien de très inquiétant. Dans le sud, sur le littoral méditerranéen, la Corse, attention, sous le soleil, le Mistral se lève, accompagné du vent de sud-ouest. Il va souffler fort demain, ce vent jusqu'à 100 km/h. Les températures, elles sont de saison, 8 à 12 degrés le matin, c'est plutôt homogène, et 15 à 25 degrés l'après-midi. Il fera 20 degrés à Paris.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir, jusqu'à 20h avec Sébastien Krebs.
J'accueille vos grandes voix qui sont là, comme chaque soir, à partir de 18h30. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez bien sûr tous votre mot à dire. Vous réagissez au 39-21. Vous échangez avec nous et sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1. Je voudrais qu'on commence par cet élément rassurant. On en parlait dans le journal de 18h avec Alain Acco. Élément rassurant dans l'enquête sur l'attaque de la préfecture de police de Paris. Cette clé USB qui a été retrouvée dans le bureau de l'assaillant était donc une clé professionnelle. Au final, il n'y a pas eu de connexion à l'extérieur. Finalement, aucune trace de fuite. C'est plutôt une bonne nouvelle et un ouf de soulagement.
On peut dire ouf. Bah oui. Et moi, je me suis dit ouf et j'ai pensé à tous les policiers et surtout à toutes les femmes de policiers, enfants de policiers, enfin toutes les familles, tous les proches, qui devaient trembler quand même depuis quelques jours en se disant « Et si nos noms, nos adresses, tous les renseignements sont communiqués à l'extérieur, etc. » Et évidemment, on pensait à Magnanville et à des drames de ce genre. Donc je pense que si c'est confirmé, je l'espère, votre information, si c'est confirmé qu'il n'y a pas eu de sortie extérieure de l'ordinateur vers d'autres sources, vers d'autres ordinateurs, etc., c'est une très bonne nouvelle.
Et y compris les vidéos de propagande qu'on avait trouvées, Charles Villeneuve, finalement étaient des vidéos de travail, visiblement. Elles étaient là parce que c'était des éléments qui étaient sur les ordinateurs des agents du renseignement de la préfecture.
Oui, parce qu'il avait, si vous voulez, la compétence de la maintenance de tous les supports informatiques, y compris des ordinateurs, plus l'habilitation secret défense. À partir de là, il passait dans les services, il pompait quasiment tout ce qu'il y avait dans les ordinateurs. Et il les mettait, il les rangeait dans une clé USB. Ce n'est pas la seule. Hein. C'était celle qui a été mise en cause, est une clé assez puissante de 64 gigas.
Mais il y a énormément de choses.
Il y en a d'autres, mais qui, pour l'instant, sont encodées. Donc, ils sont en train de les décrypter, en quelque sorte. Mais celle sur laquelle on se posait beaucoup de questions, puisqu'on sait que, même mis à mal militairement, Daesh a un service de renseignement, un service de sécurité qui s'appelle l'Amniat et qui est friand, si vous voulez, justement, du passé, des caractéristiques d'un certain nombre de convertis qui sont volontaires pour les rejoindre. Et si, évidemment, on leur avait transmis, puisque la question était est-ce que ces renseignements sont sortis de cette clé USB et ont été transférés à des sources étrangères et ennemies et adversaires, eh bien, c'est non. Et comme dit Gérard, ouf de soulagement, parce que c'est vrai que c'était important pour tous les policiers, l'identité des policiers, des agents.
Pour l'instant, d'ailleurs, aucun lien n'a été établi entre cet assaillant et la moindre organisation terroriste. Il n'y a pas de revendication non plus.
Je pense que ils ont fait le tour de la question, notamment les experts, la DGSI et puis aussi les experts informatiques qui ont été chargés de décrypter cette fameuse clé USB. Ce qui était important aussi, c'est qu'il y avait, alors je ne sais pas si cette clé comportait l'identité des informateurs de d'un certain nombre de mosquées, notamment de mosquées salafistes. Oui. Et c'est dans les ordis du service de renseignement de la préfecture de police.
Michael, politiquement, c'est aussi un ouf de soulagement, on imagine, à Beauvau, au ministère de l'Intérieur.
Oui, c'est une petite nouvelle intéressante, on va dire positive, dans quand même la masse de cette séquence qui est très très compliquée à gérer quand même pour le pouvoir. Moi, je voudrais quand même revenir sur cette onde de choc qui continue à se propager suite au discours hier quand même du président de la République l'instauration de état de vigilance nationale. Maintenant, la question, c'est au fond comment ça peut se décliner sur le plan opérationnel. On évoquait déjà hier. Alors, c'est vrai qu'en discutant un petit peu avec les différentes administrations, on m'explique que il y a un outil qui s'est considérablement affiné et qui n'est pas assez en réalité apparemment utilisé, qui est tout simplement l'entretien annuel qui permet aussi de, lorsqu'on est face à chaque année, face à un agent de l'État, de pouvoir aussi évaluer, analyser, pour chaque fonctionnaire, et surtout ceux qui sont dans les lieux sensibles, pouvoir analyser, évaluer, fonctionner, voir comment un peu justement ils fonctionnent et comment ils s'intègrent ou pas dans leur collectivité.
Puis, on en parlait justement avec un policier de la préfecture de police tout à l'heure qui nous disait le climat de méfiance aussi que ça pouvait instaurer, le risque d'instaurer une espèce de méfiance généralisée.
C'est la raison pour laquelle ça peut être effectivement un outil qui peut canaliser et permettre aussi rationnellement de pouvoir récupérer ces fameux signaux faibles. Et je me pose quand même une autre question également. On a bien sûr décrété à l'intérieur du territoire par le président de la République la guerre contre l'hydre islamiste. Maintenant, c'est la formule consacrée. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan géopolitique et diplomatique avec les États qui, le soutiennent, voire ont des régimes d'un islam rigoriste et très puissant? Est-ce que ça va aussi générer une évolution dans notre diplomatie? Ça, on le verra.
Les questions sont en suspens. On marque une toute petite pause. On poursuit la discussion dans un instant et avec vous également au 39-21. On évoquera notamment ce rassemblement qui va être interdit par le préfet du Val d'Oise. À tout de suite.
Vous écoutez Sébastien Krebs sur Europe 1 jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon. Et vous pouvez interpeller les grandes voix. N'hésitez pas, vous avez votre mot à dire. Ça se passe au 39-21, 50 centimes la minute.
Et on revenait à l'instant sur l'enquête hein, suite à l'attaque de la préfecture de police de Paris. Je voudrais qu'on poursuive la discussion avec François qui nous a appelé au 39-21. Bonsoir François.
Bonsoir, merci de me prendre à l'antenne.
Merci de nous rejoindre. On parlait de cette clé USB, c'est assez rassurant de savoir qu'elle n'a pas été transmise ailleurs.
Non, écoutez, je vais pas rire parce que, attendez, on nous amuse avec une clé USB. Une clé USB, vous savez, c'est ce que c'est, qu'elle soit importante en giga ou pas. Bon, il peut y en avoir des copies de partout, il peut y en avoir dans tous les coins, on n'en sait pas si c'était la seule ou pas. De toute façon, tout ça, c'est rien. Voilà un monsieur qui était dans un poste sensible depuis des années, qui était au courant de d'énormément de choses. Vous doutez bien qu'il a dû transmettre tout ce qu'il avait à transmettre à ses, tous les mois, à ses commanditaires. Alors là, bon, on nous dit que la clé, il y en a peut-être d'autres. Enfin, on ne sait pas où est le mal. Hein.
S'il y en avait, parce que pour l'instant, on ne connaît pas de potentiel commanditaire.
Vous rendez compte, ce monsieur qui était depuis des années en poste à ce truc-là, bon, il a dû transmettre des éléments sensibles depuis bien longtemps à ses commanditaires. Là, maintenant, on essaie de nous tranquilliser avec ça, mais enfin bon, il faut pas. Je crois que le président a raison en disant que défendez-vous vous-même, c'est un peu son message, hein, mais je crois qu'on est dans un état quand même assez grave. On ne sait pas jusqu'à quel niveau de l'État, d'ailleurs, où va, si vous voulez, où va l'infiltration.
Parce que c'est le fameux scénario du pire que chacun redoute.
Je crois que malheureusement, sans être, c'est quand même dramatique quand vous voyez ça. Hein, c'est assez. On sait qu'il y a des fichiers S. J'ai appris, bon, encore récemment, des fichiers S dans l'armée, il y en a pas mal. Quand le porte-avions Charles de Gaulle est parti, l'intervention en Syrie un petit peu avant, et on a débarqué 30 fichiers S du bateau parce que les militaires de carrière qui suivent son fichier S. Si vous voulez, je crois que le problème est quand même assez grave, hein, assez grave.
Bon, on entend vos propos et votre inquiétude, François, sur cette situation qui, effectivement, on le disait à l'instant, pose encore beaucoup de questions. Merci d'avoir composé le 39-21 ce soir. Les grandes voix, je voudrais qu'on poursuive la discussion sur ce fameux rassemblement qui a été appelé sur Facebook par Adama Traoré, qui est un militant de Seine-Saint-Denis, ancien candidat aux européennes, qui a appelé à un rassemblement pour donner une autre version en disant cet homme n'était pas un terroriste islamiste, ce n'était pas un mobile religieux. Ce rassemblement sera donc interdit après une énorme polémique ce matin. Vous dites quoi ce soir, Gérard Carrérou?
Enfin, je dis d'abord que ça a été un peu tardif.
Est-ce que ça a été tardif?
Ça a commencé hier et il a fallu que ce matin, moi j'ai écouté à peu près toutes les radios et toutes les télés ce matin, et il a fallu que des voix s'élèvent un peu partout sur ces radios et sur les télés pour dire... Mais on va laisser cette manifestation. C'est un vrai scandale. Il faut interdire cette manifestation. Et on a vu sur le coup de 10h du matin, effectivement, je crois qu'il était 10h précise, on a eu un petit communiqué disant que le ministre de l'Intérieur avait demandé au préfet d'interdire. Mais c'est tellement évident. Ce monsieur Traoré, il a le droit d'avoir les opinions qu'on veut, mais d'organiser une manif... D'abord, il dit manifestement quelque chose qui est faux, parce que dire que la personne en question, l'assassin, n'est pas un terroriste, quelles que soient ses motivations, qu'on va éclaircir au fil des enquêtes,
c'était un terroriste. Il dit que ce n'était pas un motif religieux.
Oui, il dit que ce n'était pas un motif religieux. Mais peu importe, mais faire une manifestation de soutien avec ce personnage, pour ce personnage qui vient de tuer 4 des représentants de la police, c'est un vrai scandale. Je trouve que ça a été un peu tardif et qu'il a fallu, je pense que là, c'est probablement les réactions des médias qui ont poussé le ministre à intervenir.
Et le
préfet, avait laissé filer.
Charles Villeneuve, il l'avait pas vu, le ministre, enfin le cabinet.
Non, je pense que d'abord ça s'est passé au niveau du cabinet du préfet du Val d'Oise. Il est vraisemblable que le préfet lui-même a appelé la direction du cabinet du ministre et que le ministre, après avoir constaté justement tout le flot de protestations relayées par les médias, un flot de protestations qui venait pas seulement de la droite, puisque l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, que j'ai vu tout à l'heure à la télévision, Bernard Cazeneuve, est intervenu pour dire « Je suis intimement persuadé que dans les minutes qui viennent, que dans les heures qui viennent, le gouvernement va décréter l'interdiction d'une telle manifestation, d'une indécence de façon consommée. » Parce que quelques jours à peine après l'assassinat de 4 agents de la force publique, vous avez un homme qui appelle à la solidarité pour leur tueur. C'est quand même invraisemblable et qu'il y ait des hésitations. Et c'est vrai que c'est intervenu un peu tardivement, mais enfin c'est quand même intervenu. Heureusement que ça l'ait été. Mais c'est vrai qu'il y a eu des hésitations. et qu'un préfet, il faut savoir que le préfet est délégué du gouvernement et qu'il peut d'autorité à partir de là. Bon, je comprends que l'affaire étant extrêmement sensible, il consulte le ministre de l'Intérieur qui finit par prendre la décision. Pourquoi pas ?
Il aura fallu laisser passer toutes les matinales et toutes les déclarations politiques, ce qui a alimenté la polémique. La réponse de Mickaël Darmon et vous au 39-21, juste après la pause.
Vous écoutez Sébastien Krebs jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs entouré des grandes voix jusqu'à 19h. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon et toutes vos réactions en direct sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 39-21 Sébastien.
Et on parlait de ce rassemblement, de cet appel à se rassembler sur Facebook, une sorte de soutien à l'assaillant de la préfecture de police de Paris, rassemblement qui sera interdit. Mickaël Darmon, vous trouvez aussi que ça a été tardif, cette déclaration de Christophe Castaner ce matin ?
Oui, Charles Villeneuve a bien décrit la mécanique administrative qui a dû se mettre en place pour pouvoir arriver à cette décision. C'est vrai qu'on a entendu ici même sur Europe 1 ce matin Éric Ciotti exiger du ministre de l'Intérieur qu'il interdise et une heure plus tard, effectivement, il a interdit. Donc ça fait effectivement un sentiment un peu bizarre. Mais moi, ce que je remarque quand même surtout, c'est vrai, on l'a dit, au fond, ça a été interdit. Mais surtout, je vois quand même que l'écart se réduit entre ce que pense l'opinion sur ce sujet, qui est très compliqué, et la manière dont les dirigeants, maintenant, osent en parler. Il faut se souvenir des remous qui avaient été, à l'époque, provoqués lorsque Manuel Valls avait désigné l'ennemi intérieur, la guerre contre le djihad, on va mettre une génération à s'en remettre. Là, pour le coup, il avait été vraiment très, très critiqué. Aujourd'hui, on voit bien qu'un président de la République décrète ce qu'il a décrété, c'est-à-dire la vigilance permanente et collective de toute la nation pour lutter contre l'islamisme politique. Et il y a un assentiment quand même qui est, malgré les nuances et les questionnements que ça peut poser, il y a un assentiment comme général en disant enfin les choses sont nommées et enfin le problème est pris, et en tout cas est désigné. La question de savoir maintenant, c'est une fois qu'on sera sorti de ce fameux rituel permanent, union nationale, polémique, enquête, retour à la normale, attentat et on repart, qu'est-ce qu'on va faire sur le plan vraiment opérationnel ? Et en privé, Macron dit régulièrement, nous sommes la dernière station avant le populisme, il faut qu'on réussisse. Comment aujourd'hui va-t-il, quels outils va-t-il donner pour pouvoir mettre en place effectivement ce qu'il a décrété lors de la série de dommages.
Vous dites la société de la vigilance, c'est encore un peu court. Pardon, Charles Villeneuve.
En ce qui concerne Manuel Valls, qui avait été fortement critiqué par son propre camp, les mêmes qui ont instauré une sorte de barrière,
bien sûr,
traitant d'islamophobe de toute façon tous ceux qui nommaient les choses. Alors c'est vrai qu'il y a un fossé qui a été franchi, si vous voulez, une lacune qui est comblée, c'est qu'on nomme un peu plus les choses, mais en ce qui concerne les moyens opérationnels, ça ne peut être que des moyens judiciaires, juridiques, une loi spécifique pour essayer...
Encore une loi, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a eu des lois sur le terrorisme.
Mais le problème, ce n'est pas seulement de faire des lois, c'est de les appliquer. Et l'application tient au juge. Et donc, il faut que aussi le corpus judiciaire soit convaincu.
L'assentiment de l'opinion dont parlait Mickaël Darmon, c'est très important. Parce que quand Valls, effectivement, seul dans sa famille, ou à peu près, dénonce l'islamisme radical avec grande force à l'Assemblée nationale, il est effectivement considéré par tous les, comment dire, les bisounours de son camp, tous les gens qui
comme
pensent
comme un croix-droitier,
discours de droite, etc. Là, on sent au contraire une adhésion de l'opinion avec ce discours fort. C'est quand même... Le chef de l'État a quand même, quelque part, lancé la guerre contre l'islamisme radical. Et en citant l'islamisme radical une dizaine de fois dans son discours.
Et maintenant, quels seront les moyens ? Les chantiers sont multiples
mais
et énormes.
Pour avoir les moyens, déjà, il faut avoir l'adhésion de l'opinion.
Bien sûr.
Que tant qu'on avait peur en disant « oui, mais l'opinion va trouver enfin, le laxisme généralisé de l'opinion et l'islamophobie qui servait de cache-sexe à cet islamisme radical », aujourd'hui, personne ne parle plus depuis 2 jours, 4 jours de l'islamophobie comme on nous sortait à chaque instant.
Je voudrais qu'on entende Yves qui a composé le 39-21 pour nous joindre. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
On parlait de cette société de la vigilance. Est-ce que vous, ça vous parle, cette vigilance absolue de chacun pour détecter les potentielles personnalités dangereuses ?
Bah, écoutez, petit. Là, c'est une toute petite voix qui s'exprime au milieu des grandes voix et d'un océan de communication. Mais ce que je voulais dire et ce que je ressens, c'est qu'enfin, pour la première fois, on est en train de prendre conscience au plus haut niveau de l'État que le phénomène islamiste de la radicalisation prend une place capitale dans notre pays. Et quand j'ai entendu ces dernières heures la demande d'une manifestation en faveur du tueur de la police, je me suis demandé dans quel pays nous vivions, dans quelle démocratie une chose pareille est possible. Je pense que là, on a atteint les limites, on les a même dépassées du supportable. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'une démocratie comme la nôtre, si elle ne sait pas se défendre, elle se condamne à très court terme à tous les extrémismes, y compris à l'extrémisme musulman. Quand on sait qu'aujourd'hui la gangrène s'est tout doucement essaimée dans un certain nombre de corps de l'État ou de grandes administrations, et là nous en avons un exemple magnifique, je pense que là il est grand temps de faire quelque chose. Et ce que j'aurais souhaité, c'est que instantanément la communauté musulmane, qu'il est hors de question de stigmatiser, parce qu'elle a aussi sa place pour une large part dans la société française,
s'exprime peut-être un peu plus.
Se manifeste. Et on parle beaucoup aujourd'hui de marche blanche pour des crimes odieux, et il y en a actuellement malheureusement dans notre pays. J'aurais aimé que les dirigeants de la communauté musulmane, si promptes parfois à s'exprimer, nous invitent à une manifestation.
Ce qu'ils avaient fait, dans d'autres circonstances après le 13
Lyon,
novembre.
À Lyon, après un attentat, notamment dans l'Ain, il y avait eu un rassemblement qui avait été lancé par la mosquée.
Merci beaucoup Yves d'avoir composé le 39-21 ce soir, et merci à nos trois grandes voix ce soir, Charles Villeneuve, Michaël Darmon et Gérard Carrérou. Très belle soirée à vous.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Sébastien Clerc.
Eh ben c'est le journal de 19h avec Isabelle Millet, et à la une, c'est question autour de l'imam de Gonesse. On est toujours dans ce dossier de l'enquête autour de l'attaque de la préfecture de police. A tout de suite.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Sébastien Krebs.
À suivre après le journal de 19h, l'interview politique. Je reçois ce soir le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu. On va revenir bien sûr sur les suites de l'enquête après l'attentat de la préfecture de police de Paris. 19h20, demain en France, direction Lyon, capitale du sida. Demain dans le monde, direction Bruxelles. On va parler de notre candidate à la Commission européenne en difficulté, Sylvie Goulard. Et puis à 19h30, cette question, le cancer du sein est-il encore tabou dans notre société? C'était Octobre Rose, c'est ce mois de sensibilisation. Et je vous attends sur cette question avec vos témoignages et vos expériences au 39-21.
Vous pouvez également réagir et témoigner sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Isabelle Millet, Sébastien Krebs. Très belle soirée avec Europe 1, il est 19h.
Je condamne le radicalisme, je condamne ce qu'il a fait, ce monstre-là. Il a trahi les musulmans, il a trahi l'islam.
La riposte médiatique des imams de Gonesse. Ils assurent que le tueur de la préfecture de police de Paris ne s'est pas radicalisé dans leur mosquée.
Nous serons sur place dès le début de ce journal avec Justin Morin.
On sera aussi en Allemagne après l'attaque qui a visé à la mi-journée une synagogue et un restaurant turc. En ce jour de Kippour, il y a deux morts et des assaillants toujours en fuite.
Elles ont révolutionné notre quotidien. Les batteries au lithium présentes dans nos téléphones, ordinateurs, voitures électriques.
Leurs inventeurs ont été récompensés aujourd'hui par le prix Nobel de chimie. Et puis c'est l'un des longs métrages les plus attendus de l'année. Joker au cinéma aujourd'hui. Un Joker qui fait trembler un peu trop au goût de certains.
La tendance météo, Anissa.
La pluie nous quitte. Demain, c'est le grand retour du soleil par l'ouest et surtout l'annonce d'un très beau week-end.
Europe 1. C'est l'affaire dans l'affaire à Gonesse, dans le Val d'Oise. Les deux imams dont Michaël Harpon fréquentait la mosquée se défendent ce soir.
Depuis la tuerie à la préfecture de police de Paris, l'un d'eux en particulier est sur la sellette, fiché S. Il aurait dû théoriquement quitter le territoire en 2015. Cet après-midi, il a donc tenu une conférence de presse en compagnie de l'autre imam. Justin Morin, vous êtes sur place pour Europe 1. Il est sorti tout à l'heure devant la mosquée pour s'expliquer.
Oui, Ahmed Hilali, c'est son nom, a répondu point par point aux accusations qu'il a lues dans la presse. De sa fiche S à son obligation de quitter le territoire, il l'affirme, à aucun moment dans son parcours il n'est question de radicalisation. Sur cette obligation de quitter le territoire justement, c'était à cause d'un différend familial avec son ex-femme. Sur son renvoi de la mosquée de Sarcelles, il s'agissait de problèmes liés à la déclaration de ses revenus. Quant à ses rapports avec Michaël Harpon, qu'il décrit comme discret, il n'a pas de mots assez durs pour lui.
Michaël Harpon, ce monstre, ce tueur qui a tué les gens injustement, il venait là de prière dans la journée. je le voyais comme je vois beaucoup de fidèles qui fréquentent la mosquée. J'ai jamais parlé avec lui, j'ai jamais changé des coordonnées avec lui, on connaît rien de lui. Je condamne le radicalisme, je condamne ce qu'il a fait, ce monstre-là. Il a trahi les musulmans, il a trahi l'islam.
À ses côtés, l'imam titulaire Hassan El-Ouahri se désole de l'image médiatique donnée à sa mosquée et réaffirme sa confiance en son collègue.
Est-ce que vous croyez que la police, jusqu'à maintenant, sera naïf de connaître son parcours? Jusqu'à maintenant, ils ne m'ont pas appelé moi. Jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas appelé. Est-ce que vous remarquez qu'il y a un problème quelque part? Je suis très choqué quand vous me dites que celui-là, c'est un radicaliste. Parce que ce n'est pas possible.
Les deux imams ont aussi salué le discours du président Macron quand il dit vouloir combattre l'hydre islamiste et ils promettent de tout faire pour cela.
Justin Morin à Gonesse pour Europe 1.
Et pendant ce temps, l'enquête continue et les enquêteurs ont fait parler la clé USB retrouvée dans le bureau du tueur de la préfecture de police de Paris. Elle n'a jamais été connectée à des ordinateurs suspects.
Et soulagement pour les forces de l'ordre, cette clé contenait en effet des informations potentiellement explosives si elle se retrouvait entre de mauvaises mains, notamment les coordonnées personnelles de plusieurs fonctionnaires de police.
En Allemagne, deux morts dans une fusillade en pleine rue à Halle, près d'une synagogue en ce jour de Yom Kippour, grande fête juive.
Les tueurs s'en sont également pris à un restaurant kebab. L'un d'eux a été arrêté, les autres sont toujours en fuite. On va retrouver Hélène Cole tout de suite en direct de Halle. Hélène, la population a longtemps été confinée, l'alerte est désormais levée, mais l'ambiance reste très pesante.
Oui, il y a une trentaine de minutes, ce message rassurant de la police, il est désormais possible de circuler dans le centre-ville. Mais alors que la nuit est tombée et que la pluie tombe à trombes ici dans le centre-ville, eh bien, il y a beaucoup d'angoisse. La synagogue a seulement pu être évacuée il y a quelques minutes après des heures d'attente et d'angoisse pour les 70-80 croyants qui étaient retranchés depuis midi. Plusieurs documents, vidéos, sonores ainsi que les témoignages des riverains permettent de réaliser avec quelle détermination et quelle haine surtout l'assaut a été mené contre ce bâtiment. Au moins une dizaine de coups de feu ont été tirés contre la porte. Et selon plusieurs médias, des charges explosives ont aussi été retrouvées, posées contre le mur. Une autre vidéo montre un homme lourdement armé, en habit paramilitaire et coiffé d'un casque en métal copié sur ceux que portaient les soldats nazis de la Wehrmacht. Pour les enquêteurs, à ce stade, il n'y a désormais plus de doute sur le fait que cette attaque visait délibérément la communauté juive. La police a en sa possession une vidéo avec les aveux d'un Allemand de 27 ans qui tient des propos antisémites et négationnistes. Est-ce qu'il s'agit de celui qui a été arrêté il y a quelques heures? Est-ce la même vidéo que celle qui circule sur les réseaux sociaux et notamment sur certains forums d'extrême droite? Combien y avait-il de tireurs au total? Ce sont des questions qui restent ouvertes ici ce soir. La police parle depuis la mi-journée de plusieurs assaillants, mais on n'en sait pas plus.
Merci beaucoup Hélène Kohl en direct de Halle en Allemagne.
La Turquie a lancé son offensive dans le nord-est de la Syrie contre les Kurdes.
Offensive rendue possible par le retrait des troupes américaines. Des milliers de personnes sont actuellement en train de fuir. Il y aurait au moins deux morts parmi les civils. Condamnation de la communauté internationale. Réunion d'urgence demain du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Congrès américain lui promet de faire payer très cher au président turc cette offensive en Syrie.
C'est un pays dont on parle rarement mais qui vit en ce moment des temps troublés, l'Équateur, secoué par un mouvement social inédit.
Et les choses se sont aggravées ces dernières heures. Le président a ordonné hier un couvre-feu nocturne autour des lieux de pouvoir. Le Parlement a été brièvement envahi. Et aujourd'hui, ce sont des milliers de manifestants actuellement qui défilent à Quito, la capitale, contre la hausse du prix de l'essence.
On les utilise partout et presque pour tout. Ce sont les batteries au lithium.
Et bien leurs inventeurs, un Américain, un Britannique et un Japonais, viennent d'être récompensés aujourd'hui du prix Nobel de chimie. Bonsoir Lord Autriche.
Bonsoir.
Que serait-on sans eux,
hein? Ah oui, effectivement, parce qu'on trouve des batteries au lithium dans les ordinateurs portables aujourd'hui, les smartphones, les tablettes ou encore les voitures électriques. Le lithium, c'est ce métal très léger qui peut stocker 3 à 4 fois plus d'énergie que les autres technologies de batterie, et ce sont les batteries les plus puissantes jamais vues. Alors cette révolution s'est faite en 3 étapes et chacun de ces 3 chercheurs y a participé. Le premier, le Britannique Whittingham, qui au début des années 70 cherche en pleine crise pétrolière des sources d'énergie plus propres. Il réussit à créer la première batterie au lithium. Le deuxième, l'Américain Goodenough, va doubler la puissance des batteries. Et enfin, le troisième, le Japonais Yoshino, va rendre la batterie moins dangereuse en remplaçant le lithium par un autre matériau, le carbone. Et c'est ce qui va permettre de transporter plus facilement ces batteries. Alors c'est l'une des grandes avancées du siècle dernier avec le transistor ou la fibre optique, dit Jean-Marie Tarascon, chimiste et professeur au Collège de France. Notre vie ne serait pas la même sans cette découverte.
Vous prenez n'importe quel appareil, chaque personne sur la Terre utilise des batteries à ion lithium. Tout ça, eh bien, c'est directement possible parce qu'il y a eu cette technologie à ion lithium. Il n'y aurait pas cette technologie, on aurait finalement une société qui serait totalement différente aujourd'hui. On aurait encore des téléphones qui ne seraient pas miniatures, on aurait eu 3 fois plus de poids pour la même autonomie.
Voilà, et avec ce prix aujourd'hui, l'Américain John Goodenough, âgé de 97 ans, devient le plus vieux lauréat Nobel de l'histoire. C'est un homme qui ne s'est jamais arrêté de chercher d'ailleurs, il y a quelques mois encore. Il disait qu'il avait encore des solutions à trouver sur ce sujet avant de mourir.
Prix Nobel à 97 ans, oui. Il a bien fait d'être patient.
Bravo à lui et à tous les trois. Merci Lord d'Autriche. La polémique autour du film Joker, accusé de légitimer la violence.
On est sorti aujourd'hui en France avec Joaquin Phoenix dans le rôle de ce clown raté, rêvant de devenir comédien, paria, rejeté, méprisé, poussé à bout, victime de la violence. Il va progressivement plonger dans la folie et devenir donc ce fameux personnage du Joker.
Alors si vous avez aimé Jack Nicholson dans le rôle, ça n'a pas grand-chose à voir. Beaucoup plus sombre, voire perturbant. Et ce qui pose problème, c'est justement cette violence hein, qui est légitimée par la souffrance. Écoutez ce qu'en pensent les tout premiers spectateurs.
La société est très violente envers ce personnage et on comprend que ce personnage-là soit aussi très violent.
On se met presque à avoir pitié de lui, bien que ce soit un sacré horrible quand même, in fine. Puis on se dit qu'on est dans une société qui, pour parler un peu gilet jaune et tout le tralala, mais ça ramène un peu cette ambiance quand même. On voit que les gens sont à bout, il y a plein de choses qui sont cachées derrière les placards et que ça a envie de sortir.
Ça m'a touchée pour lui parce qu'il voulait juste un peu d'attention en fait.
Répondre à des injustices sociales par la violence, est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne crois pas, ça m'a un peu perturbée.
Et voilà les premiers spectateurs du film Joker au micro européen de Caroline Baudry.
Merci Isabelle Millet pour le journal. On vous retrouve à 19h30 pour un dernier rappel de l'info.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Anissa, pas de jaloux demain côté température.
Oui, effectivement Sébastien, demain nous serons presque tous logés à la même enseigne côté température, elles sont assez homogènes. Demain au lever du jour, nous aurons entre 8 et 12 degrés, pas vraiment de grand écart, 8 à Rodez et Saint-Etienne, 10 degrés à Dijon, Toulouse, Périgueux, Lille, Clermont-Ferrand, Belfort, il y a une belle série de 10 degrés quand même demain matin, 11 degrés pour Paris, 12 à Dunkerque et Montpellier et 15 degrés le matin déjà. À Ajaccio. Alors demain après-midi, avec le retour du soleil, c'est vrai que les températures seront beaucoup plus douces au sud. 25 degrés à Nîmes quand même début octobre, hein, 24 à Marseille, 23 à Nice et Perpignan, 21 à Toulouse et Bordeaux, 18 degrés à Caen, Paris et Auxerre, 17 à Besançon et 15 degrés à Aurillac. C'est là qu'il fera le plus frais. Demain, dans le ciel, la journée, elle est plutôt calme. Sur le nord-est et le massif central, quelques gouttes sont encore possibles, mais partout ailleurs, ce sont des nuages et des éclaircies qui se partagent le ciel. Attention au vent tout de même sur la Corse, le bassin méditerranéen et les côtes de la Manche. Là, le vent souffle fort, c'est un vent de sud-ouest jusqu'à 100 km/h en rafale.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs.
Et dans une minute, place à l'interview politique de ce grand journal du soir. Je reçois Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement National.
Sébastien Krebs, jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique. Sébastien Krebs, ce soir vous recevez le député du Nord et porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu.
Bonsoir Sébastien Chenu.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre en studio. Ce soir, je voulais d'abord vous faire réagir à ce nouvel élément dans l'enquête. On en parlait dans le journal de 18h tout à l'heure, cette avancée qui doit rassurer un certain nombre de policiers de la préfecture de police de Paris, puisqu'on sait ce soir que cette fameuse clé USB qu'on a trouvée dans le bureau de l'assaillant n'a pas été connectée à d'autres ordinateurs à l'extérieur. Bonne nouvelle, ça veut dire que ces éléments n'ont pas fuité à l'extérieur, a priori.
Oui, non, mais
ça veut dire que le profil aussi de l'assaillant change.
Oui, enfin, le profil de l'assaillant change, ça reste un criminel meurtrier, radicalisé, islamiste. Bonne nouvelle, oui, on peut toujours se réjouir que ce ne soit pas pire que ça aurait pu être. Le problème, c'est qu'on est quand même dans un cas de figure qui montre qu'aujourd'hui, l'autorité de l'État est quand même durement mise à mal. Il y a quand même des trous dans la raquette qui sont des béances dans les systèmes à la fois de surveillance, de remontée d'informations et de capacité également en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur à assumer ses responsabilités. De tout ça, on peut reparler. Alors, on peut se réjouir qu'effectivement, les données de la clé USB ne soient pas plus volatiles que cela, bien sûr, parce qu'on pouvait penser à Magnanville et notamment aux adresses de policiers qui avaient été trouvées. Simplement, moi, je ne me réjouis pas de cette nouvelle. Je trouve que c'est consternant qu'on en soit là. Je trouve que le gouvernement n'a rien fait en réalité depuis hier. Il y a toujours une centaine de mosquées salafistes qui sont ouvertes dans notre pays. Ça doit gêner de pouvoir les fermer. Je pense que ça doit déranger probablement certaines structures, certaines banlieues. Mais en réalité, le gouvernement n'a rien fait. Il a même eu du mal à interdire la manifestation de M. Traoré en soutien à ce terroriste. Alors, ils ont eu du mal à l'interdire.
Alors venons-en à cette manifestation, puisque vous en parlez, ce rassemblement donc à l'appel sur Facebook d'un militant de Seine-Saint-Denis, il a tardé à réagir, Christophe Castaner, ce matin, 9h30, son tweet, après déclarations politiques qui ont envahi toutes les matinales ce matin.
Près de 24 heures, il a fallu près de 24 heures pour que l'État dise qu'il allait interdire cette manifestation. Ça devait être normalement la première réaction à avoir. C'était réaffirmer l'autorité de l'État en disant qu'il était absolument que cette manifestation devait être absolument interdite, et puis on devait aussi poursuivre immédiatement cet individu Traoré pour une apologie de crime. Je pense que là il y a matière à le poursuivre pour ce délit.
Est-ce qu'il y a vraiment matière apologie du terrorisme?
Quelqu'un qui fait une manifestation de soutien à un meurtrier. Il joue sur les mots, mais on devrait faire des exemples, on devrait montrer l'autorité de l'État, on devrait montrer à tous ces gens qu'adhérer à cette idéologie est susceptible de l'islam radical, est susceptible de vous amener devant les tribunaux pour trahison de votre pays. Voilà ce qu'on devrait faire dans notre pays, montrer à ces gens-là qu'adhérer à l'idéologie de l'islam radical est susceptible de vous envoyer en tôle.
Alors, il a fait d'autres déclarations depuis et il dit qu'il ne soutient pas le tueur. Il veut organiser une sorte d'hommage et développer une thèse en disant que le motif n'était pas religieux. Voilà,
oui, bien sûr, un hommage à un assassin. Je pense qu'on marche sur la tête dans ce pays.
Un hommage aux policiers.
Oui, c'est ça.
Faut changer la loi. Vous parliez des mosquées, justement, des mosquées salafistes. Aujourd'hui, le salafisme n'est pas illégal. On ne peut pas fermer. Il faut d'autres motifs. Il faut que l'imam ait prononcé des prêches religieux incitant à la haine pour avoir des motifs. Est-ce qu'il faut changer la loi sur ces mosquées ?
Il y a probablement, c'est pas changer la loi, c'est changer de politique. Il y a une politique à changer. D'abord, je pense qu'il n'y a pas de volonté du gouvernement, intellectuellement, de se positionner en guerre contre l'islam radical. Le ministre de l'Intérieur a laissé, moi qui suis élu du Nord, j'ai vu à Maubeuge prospérer des listes islamistes aux élections européennes, qui ont fait d'ailleurs dans certains quartiers de Maubeuge 40% pour des listes qui n'avaient pas de bulletin de vote dans les bureaux de vote. La ministre des Sports, Mme Maracineanu, a l'air refusée, elle, de venir devant la commission parlementaire chargée de la radicalisation dans le secteur public. Elle a considéré que ce n'était pas sa place, son rôle, son boulot. Donc ça montre qu'il n'y a pas de volonté, qu'il y a probablement une espèce de peur. Et puis que oui, effectivement, il faut changer de politique, c'est-à-dire on doit revoir le droit du sol, parce que là où il y a une immigration massive, il y a un communautarisme. Là où il y a un communautarisme, c'est le terreau du fondamentalisme. Ne pas faire le lien, c'est vider un océan avec une petite cuillère. Donc évidemment, on doit créer un délit qui interdit le fait qu'on puisse attenter, se mettre en position d'attenter au pays dans lequel on est. On doit le faire. Je disais tout à l'heure, les gens qui ont un rapport avec l'islam radical doivent aujourd'hui non seulement être surveillés, mais pouvoir être éventuellement poursuivis parce que c'est le seul message de fermeté qu'ils comprendront.
Vous dites fermer des mosquées, c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que ce n'est pas risqué tout de même de reléguer cet islam dans les caves, ce qu'on a pu connaître, avec dans des endroits qu'on ne peut plus surveiller, alors que ces mosquées aujourd'hui, on le sait, sont surveillées par un certain nombre d'indicateurs.
Non mais ça c'est le prétexte pour ne pas le faire. L'arrêté, ça c'est le prétexte pour ne pas le faire. Il y a 100 mosquées radicalisées dans notre pays. Il faut les fermer, oui, il faut les fermer. Toutes les fermer. Il faut envoyer des signes de fermeté. Il faut montrer que l'État a de l'autorité. Il faut montrer qu'on est maître chez nous. Nous sommes maîtres de notre destin, nous protégeons les Français. Mais quand est-ce qu'on va... Je ne sais pas en fait combien de morts, à quel moment il va falloir qu'il y ait un mort supplémentaire pour éveiller la conscience de ceux qui nous dirigent et changer radicalement, c'est le cas de le dire, de politique. Donc oui, il faut fermer les mosquées salafistes, sinon ça ne sert à rien de les classifier comme salafistes. Si ce sont des repères dans lesquels on vient prendre le thé, alors ce n'est pas grave, il faut les laisser ouvertes. Le problème, c'est que là-dedans, naissent des réseaux fondamentalistes.
Vous avez trouvé Emmanuel Macron un peu court hier sur ces questions ?
Non mais c'est du blabla, du blabla, il le fait d'ailleurs probablement avec sincérité, il le fait avec des mots qui peuvent nous toucher, très bien, mais c'est du blabla, derrière il n'y a rien, derrière il n'y a pas une mesure qui a été annoncée. Qu'est-ce qui a été annoncé depuis hier ? Rien. Et en fait Christophe Castaner, lui nous dit, bon il ne savait pas, il n'était pas au courant, c'est les autres, c'est pas lui, enfin comme à chaque fois.
Vous appelez toujours à sa démission. Marine Le Pen appelait même à la démission d'Edouard Philippe hier. Est-ce que ça va... Quel effet ça peut avoir concrètement
Évidemment, pour remplacer un nul par un autre nul qui fera la même politique, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est appliquer les lois que nous avons. Lorsque des imams qui, depuis 5 ans, devraient avoir déguerpi du territoire français, du sol national, se maintiennent et font des conférences de presse, c'est qu'il y a quand même un problème. Quelqu'un qui doit quitter le territoire parce qu'il n'est pas en règle, parce qu'il est un imam salafiste qui profère des propos anti-républicains et 5 ans après, il est toujours là parce qu'il s'est marié. Il faut quand même avouer qu'il y a un problème. Ça veut dire que chacun fait exactement ce qu'il veut.
Et vous mettez en cause à nouveau le gouvernement
bien sûr.
Ce soir. Merci beaucoup merci. Sébastien Chenu d'être venu ce soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous.
Europe 1. Et il est 19h20 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Avec à 19h30 le mois octobre rose, un mois pour parler du cancer du sein. Où en est-on aujourd'hui de cette maladie, de la recherche, et est-ce encore un tabou pour les femmes? On vous donne la parole au 39-21 et j'en parle avec mes invités à 19h30.
Vous pouvez également réagir, témoigner, poser vos questions sur Twitter. On lit vos messages avec le hashtag Europe 1 Sébastien Krebs jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Et on est avec vous, au plus près de vous, en région. Chaque soir, c'est demain en France. Ce soir, on rejoint Jean-Luc Boujon à Lyon. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Sébastien.
Le président de la République vient d'arriver chez vous à Lyon. Demain, il va piloter la conférence du Fonds mondial contre le sida. C'est quoi exactement cette conférence, Jean-Luc ?
Alors le nom complet, c'est Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En fait, c'est une conférence de l'ONU qui, tous les 3 ans, réunit les pays donateurs, principalement États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, et des pays qui doivent bénéficier de cet argent, pour l'essentiel en Afrique. Et l'objectif ultime, c'est d'éradiquer ces épidémies d'ici 2030. Pour cela, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, car dans certains pays, les traitements sont inaccessibles en raison de leur coût. Donc Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il faudrait réussir à collecter 14 milliards d'euros, ce qui n'est apparemment pas gagné parce que les pays donateurs fatiguent un peu, comme on dit, à force de donner. Son rôle sera donc de remotiver tout le monde avec aussi le concours de personnalités. On sait qu'il aime bien ça aussi. Donc sont confirmées la présence de Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et de Bono, le chanteur de U2, qui tous deux font partie des plus gros donateurs privés.
Pourquoi ça se passe à Lyon demain, cette conférence, et pas, on aurait pu imaginer que ça puisse se passer à Paris, classiquement? J'ai envie de dire.
Il faut bien que vous nous laissiez quelques manifestations, Sébastien. Donc, non mais sérieusement, Lyon est reconnu au niveau mondial comme un pôle médical de référence avec notamment ses nombreux labos pharmaceutiques. Et puis l'OMS va y implanter d'ici 12 mois son centre de formation. Donc après pas mal de travail de lobbying quand même, Lyon a finalement été choisi. Il fallait que ce soit la France. Lyon a été choisi au détriment de Paris.
Bon, est-ce qu'il est prévu qu'Emmanuel Macron fasse tout de même un peu de politique, par exemple, peut-être essayer de régler quelques problèmes de candidats LREM au municipal chez vous à Lyon?
Bah écoutez, c'est pas dans l'agenda officiel, mais oui, évidemment, parce qu'il y a un gros problème à Lyon. Deux candidats pour un seul poste. Les deux candidats, c'est le maire Gérard Collomb et son dauphin David Kimmelfeld, qui tous deux veulent l'investiture La République En Marche pour la présidence de la métropole, et non pas la mairie, mais la métropole, qui est le vrai lieu du pouvoir à Lyon. Les deux hommes sont à couteau tiré depuis des mois, mais hier, on a appris qu'Emmanuel Macron aurait choisi de soutenir finalement son ami Gérard Collomb, son ancien ministre de l'Intérieur aussi. Donc on peut penser qu'Emmanuel Macron va essayer de calmer un peu la colère de David Kimmelfeld, qui s'y voyait bien candidat. Et David Kimmelfeld, qui depuis plusieurs jours n'arrête pas de dire qu'il se présentera quand même, qu'il ira même sans l'investiture. Donc Emmanuel Macron veut absolument éviter une dissidence. Il veut éviter que ça se passe comme à Paris, avec le risque évidemment d'offrir un boulevard à la droite pour reprendre la ville de Lyon, qui est détenue par la gauche, par Gérard Collomb depuis 18 ans.
Ouais, ça nous rappelle quelque chose, votre histoire après la guerre à Paris, la guerre pour la métropole de Lyon. Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Belle soirée.
Il est 19h25, la suite de votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Et après la France, on va dans le monde. Demain, dans le monde, c'est ce soir avec notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Bonsoir.
Bonsoir Sébastien.
Demain à Bruxelles, c'est oral de rattrapage au Parlement européen pour Sylvie Goulard. Sylvie Goulard, vous savez, c'est la candidate de la France à la Commission européenne. Elle a raté son premier examen de passage la semaine dernière.
Effectivement, or cette audition seule face aux élus, il faut absolument la réussir pour pouvoir siéger à l'exécutif européen à Bruxelles. C'est un passage obligé pour les candidats, sans équivalent en France pour les ministres. Et c'est parfois très éprouvant pour les futurs commissaires. Sylvie Goulard a vraiment souffert pendant 3 heures la semaine dernière. Alors les députés européens la reconvoquent parce qu'ils ont encore des questions sur sa capacité à gérer l'énorme portefeuille qui lui a été confié. Honnêtement, industrie, marché intérieur, défense, c'est du jamais vu à Bruxelles. Et les élus se demandent aussi comment elle peut vouloir être commissaire alors qu'elle a démissionné comme ministre française des armées à cause de l'affaire des assistants fictifs du MoDem. Et il y a encore d'autres points à éclaircir. Écoutez le LR Geoffroy Didier.
Sylvie Goulard n'ayant pas convaincu lors de la première audition, nous allons lui poser à la fois des questions techniques, mais aussi politiques, concernant par exemple les doutes qui peuvent encore peser sur son intégrité ou sur les confusions, les conflits d'intérêts qui auraient pu exister entre les intérêts américains qu'elle a défendus à un moment, puisqu'elle était rémunérée par un think tank américain, et les intérêts européens qu'elle est censée désormais incarner.
Ouais, c'est compliqué pour Sylvie Goulard. Isabelle, est-ce qu'il y a vraiment un risque qu'elle soit recalée ?
Bon, c'est difficile de se prononcer avec certitude à cette heure-ci. Ça va dépendre en partie de la qualité de sa prestation, 1h30 demain matin. En tout cas, je peux vous dire que l'Élysée et la future présidente de la Commission européenne mettent une énorme pression sur les eurodéputés depuis quelques jours. En coulisses, il y a des tractations politiques entre les partis parce que si Sylvie Goulard échoue demain, ça serait vraiment une claque pour Emmanuel Macron et pour la France. Alors, est-ce que le Parlement de Strasbourg aura le courage d'infliger un camouflet au président le plus europhile de l'Union ? Bon, pas sûr. Ce qui se murmure à Bruxelles, c'est qu'une solution de compromis, ça serait de réduire le périmètre des responsabilités confiées à Sylvie Goulard. On saura tout ça demain dans la journée.
Et on suivra ça avec vous. On saura dans la foulée si elle est validée ou il y aura encore un petit délai.
Ça dépend si c'est clair ou pas. Et ça peut prendre un petit moment, quelques heures, le temps des tractations entre les parties, si effectivement il y a encore un doute.
Eh bien, on vous dit à demain. Alors, Isabelle Horry pour nous raconter tout ça. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Le rappel des titres d'Isabelle Millet. Et juste après, on va parler du cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes en France. On en soigne évidemment de plus en plus, mais ça reste tabou pour beaucoup de femmes. Je vais recevoir le docteur Anne-Vincent Salomon et la créatrice de mode Chantal Thomas. Et vous témoignez bien sûr sur ce sujet au 39-21. À tout
votre
suite.
Grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Avec Isabelle Millet pour le rappel de l'info.
Et une attaque antisémite, potentiellement d'extrême droite, c'est ce que dit ce soir un ministre allemand après la tentative d'assaut contre une synagogue à Halle. Plusieurs assaillants, certains portant des costumes d'officiers de la Wehrmacht, ont tiré plusieurs coups de feu dans la porte de cette synagogue. Puis sur un restaurant kebab turc, il y a 2 morts. L'un des tireurs a été arrêté, les autres sont en fuite. La scène a été filmée par l'un des auteurs. Et la vidéo a été publiée sur Internet. L'offensive turque en Syrie est une mauvaise idée, c'est ce que dit ce soir Donald Trump, sachant que cette offensive a été rendue possible par le retrait des troupes américaines. Le gouvernement français va proposer qu'un demandeur d'asile qui a déjà déposé un dossier dans un autre pays européen ne puisse pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil en France. Annonce du ministre de l'Intérieur devant le Sénat cet après-midi, le Sénat où on débat de l'immigration. Cette mesure pourrait permettre de réduire la demande d'asile qui a augmenté de 22% l'an dernier. Et puis la disparition de l'ancien joueur de tennis espagnol Andrés Gimeno, vainqueur le plus âgé de Roland-Garros, qu'il avait remporté à 34 ans et 10 mois en 1972 aux dépens du Français Patrick Croisi en finale.
Merci Isabelle Millet. Bonne soirée. La météo avec Anissa, il va faire doux demain dans le sud.
Oui, effectivement, parce que c'est le retour du soleil. Le soleil qui va s'installer plusieurs jours. On va avoir droit vraiment à une très belle fin de semaine. 25 degrés demain après-midi à Nîmes, 24 à Marseille, 23 à Nice et Perpignan, 21 à Toulouse et Bordeaux. Puis plus on remonte, plus ça se rafraîchit forcément. 18 à Caen, Paris et Auxerre, 17 à Besançon et 15 à Aurillac. Alors dans le ciel, bah ça y est, cette perturbation qui était au-dessus de nos têtes depuis plusieurs jours, elle est en train de partir, elle s'évacue par l'est, cette perturbation. Alors il y aura encore quelques gouttes possibles demain sur les frontières de l'est, sur le massif central. Rien de très inquiétant. Partout ailleurs, ciel partagé entre nuages et éclaircies. Mais attention, dans le sud, c'est le vent qui se renforce, le Mistral et le vent de sud-ouest qui pourra souffler jusqu'à 100 km/h, notamment sur la Corse.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Sébastien Krebs.
Et on va parler d'Octobre Rose à présent. C'est notre débat ce soir. Vous avez peut-être vu cette image mardi dernier, 1er octobre, la Tour Eiffel qui a été le temps d'une soirée éclairée en rose. On voulait ce soir s'arrêter sur cette campagne Octobre Rose qui, tout au long de ce mois d'octobre, est destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. On en parle avec le docteur Anne-Vincent Salomon. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on en parlera dans un instant avec Chantal Thomas, la créatrice de mode et de lingerie féminine, qui sera en ligne avec nous. On va se poser la question, est-ce que cette maladie est encore tabou, encore difficile à évoquer pour une femme? Et je vous invite tous à témoigner au 39-21. On vous accueillera dans ce débat dans un instant. Docteur Anne-Vincent Salomon, elle existe depuis 25 ans, cette campagne Octobre Rose. Qu'est-ce qu'elle a permis? Est-ce qu'on avance sur un certain nombre de points?
Alors, cette campagne, elle permet effectivement de briser des tabous, elle permet à des patientes de se sentir certainement moins isolées. C'est un moment privilégié pour faire prendre conscience que aller se faire examiner et palper les seins et passer une mammographie à partir de l'âge de 50 ans et ce jusqu'à 74 ans, c'est utile. Bien sûr, certains pensent qu'il peut y avoir dans certains cas un risque de surdiagnostic, mais peut-être qu'on pourra en reparler. En tout cas, Octobre Rose, c'est un moment où des quantités d'événements, de plus en plus d'événements sont organisés. Il y a d'une part des levées de fonds, des organisations pour des levées de fonds, mais également des manifestations où les patientes qui ont été traitées, qui sont guéries, se rejoignent, font des défis sportifs, etc. Et ça, c'est bien que tout le monde en parle, on est tous concernés. Donc c'est les côtés très positifs de ce mois d'octobre.
Le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu chez les femmes. On estime qu'une femme sur 8 sera touchée par ce cancer au cours de sa vie. C'est 58 000 nouveaux cas diagnostiqués en France l'an dernier. 12 000 décès, c'est un chiffre stable, mais c'est aussi le cancer qu'on guérit le mieux. Ça, on oublie peut-être trop souvent de le dire.
Alors, vous avez raison de le dire. Effectivement, les formes de cancer du sein, de petite taille, avec pas de ganglions envahis et de certaines formes, se guérissent bien. Les femmes, après 5 ans de suivi, après le traitement, vont avoir leur suivi s'alléger. Et effectivement, il y a un message d'espoir, puisque 87% des femmes, après leur traitement, après 5 ans, sont en vie et se portent bien. Donc c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, comme vous l'avez dit aussi, 12 000 décès par an, c'est un chiffre qui reste stable, malheureusement. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire tous nos efforts pour comprendre pourquoi, faire progresser la recherche, essayer d'ajuster les traitements. Et on vit vraiment un moment où, pour les formes les plus petites, les plus indolentes, les traitements s'allègent de plus en plus. On comprend mieux la biologie des cancers du sein, donc on ajuste mieux le traitement. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, mais en fait, ça va être ajusté non seulement à la biologie du cancer, mais également à la femme qui est malade. Et on va, en fonction de son âge, en fonction de la présentation de la maladie, ajuster vraiment le traitement. Donc ça, c'est très important.
Et puis, se faire dépister, vous le disiez, il faudrait que ce soit systématique. Il y a encore des progrès à faire sur ce dépistage.
Alors vraiment, il y a deux niveaux de progrès. Il y a seulement 50% des femmes, enfin un peu moins de 50% des femmes qui vont répondre à l'appel du dépistage systématique. Donc, la moitié d'entre nous n'allons pas au dépistage. Donc ça, il faut probablement inviter les femmes à ne pas se mettre la tête dans le sable et à y aller, quoi. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Mais ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est faire des progrès dans les méthodes de diagnostic du cancer du sein. Parce qu'en fait, c'est compliqué d'accéder à cet arbre de la glande mammaire. On le regarde là actuellement. Bon, d'une part, on palpe les seins. Toute modification des seins doit être signalée à un médecin, mais également, on doit progresser dans les méthodes de dépistage. La mammographie et l'échographie, c'est ce qu'on a à disposition pour l'instant, et il faut faire de la recherche pour trouver mieux.
On va accueillir au téléphone dans un tout petit instant la créatrice de mode Chantal Thomas, et on parlera aussi avec vous et avec nos auditeurs et auditrices au 39-21 de l'impact psychologique aussi de la maladie pour celles qui sont affectées par cette maladie et du tabou que ça peut aussi représenter. À tout de suite.
Vous pouvez également réagir et témoigner sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Sébastien Krebs jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Sébastien Krebs. Et c'est en ce moment Octobre Rose, l'occasion de parler du cancer du sein, notamment avec vos invités et les auditeurs d'Europe 1 en direct au 39-21.
Avec en studio le docteur Anne-Vincent Salomon, médecin, chef de département pathologie à l'Institut Curie à Paris. Et en ligne avec nous, Chantal Thomas. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous connaît pour les sous-vêtements que vous créez, mais vous êtes impliqué depuis plusieurs années dans cette campagne Octobre Rose. Quand on parle de cancer du sein, on parle forcément de féminité. Ça donne aussi une autre dimension à la maladie et à la souffrance pour une femme qui est atteinte de cancer du sein.
Mais c'est clair, c'est vrai que c'est très compliqué pour une femme qui a le cancer du sein. Moi, j'ai souvent rencontré des femmes qui me disent « mais on a des problèmes de soutien-gorge, faites quelque chose ». On ne peut pas porter les mêmes soutiens-gorge quand on a eu le cancer du sein. Il y en a souvent qui ont été, qui ont eu une ablation du sein. Donc, ça demande, oui, ça demande de l'aide en général, c'est vrai. Et c'est vrai que Octobre Rose, c'est très important parce que c'est informer les femmes et leur dire d'aller se faire dépister. Et puis après, le plus important, c'est de trouver de l'argent pour la recherche. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, tous les ans, moi, mais beaucoup d'autres créateurs, on fait quelque chose de particulier qui rapporte de l'argent. Cette année, j'ai fait une boîte de thé pour Cousmiti où les bénéfices vont à la recherche pour le cancer du sein. L'année dernière, j'avais fait autre chose. Tous les ans, depuis le début, je fais quelque chose pour trouver de l'argent, en fait.
Vous parliez de sous-vêtements et de lingerie. Il y a chaque année 20 000 femmes qui doivent subir l'ablation d'un sein. À ce moment-là, oui. Pour retrouver de la lingerie féminine, jolie, c'est très compliqué.
C'est très compliqué, c'est très compliqué. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de proposer. Oui. C'est vrai que ça fait peur aux industriels, en général, parce que ça touche la maladie et qu'en général, les présidents de sociétés sont des hommes. Donc, ils sont moins sensibles.
Ils ne comprennent pas forcément l'enjeu.
Non, je pense qu'ils ne le comprennent pas, ça leur fait peur quelque part. Parce que c'est pas, on n'est plus dans l'esthétique, mais justement, on devrait pouvoir être dans l'esthétique en même temps. Et je pense que ce qui ferait plaisir aux femmes, c'est d'avoir quelque chose de joli pour se sentir mieux.
Bien sûr, on a beaucoup d'appels.
Il y a encore des choses à faire.
Ouais, on a beaucoup d'appels au 39-21. Je voudrais qu'on accueille Adeline au 39-21. Bonsoir Adeline.
Oui, bonsoir toute l'équipe d'Europe 1.
Merci de nous contacter. Vous avez écrit, vous, un livre qui s'appelle « Le journal d'une Amazone ». Comment vous réagissez à ce que disait Chantal Thomas à l'instant ? C'est une part de la féminité qui s'en va quand on doit subir comme ça une opération qui touche un sein, qui est vraiment le symbole de la féminité ?
Alors, pour moi, ça n'avait aucun impact sur ma féminité, justement, c'est ce que je dis dans mon livre. C'est que justement, ça m'a permis, moi, de me reconnecter à ma féminité, donc d'une façon autre.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Alors moi, si vous préférez, quand je suis tombée malade, hein, puisque ça va faire 3 ans hein, maintenant, quand je suis tombée malade, au total, moi, j'ai eu 3 cancers. Donc le premier étant le cancer du sein, ça m'a permis de faire un cheminement intérieur. Donc, grâce à la créativité, donc l'écriture et la spiritualité et la foi également.
Et vous donc, vous la êtes féminité, elle a été renforcée. Cette souffrance.
Tout à fait, tout à fait. C'est une deuxième naissance, en fait.
Merci beaucoup, Adeline, pour votre appel ce soir. Il y a également Gilbert qui, au 39-21, nous dit « Je suis un homme et j'ai un cancer du sein depuis 2 mois ». Ça existe aussi chez l'homme ?
Absolument, ça existe chez les hommes. Ça représente un petit peu moins de 2% des cancers que nous devons prendre en charge. Et il y a des particularités biologiques, mais finalement, ça ressemble tout à fait quand même à des cancers du sein traités chez la femme. Et les hommes, à cette particularité près, que généralement, on leur propose d'aller consulter un généticien pour regarder s'il y a une prédisposition familiale.
Merci beaucoup, docteur Anne-Vincent Salomon, d'être venu en studio ce soir. Je rappelle que vous êtes chef du département pathologie à l'Institut Curie à Paris. Merci également à Chantal Thomas, créatrice de mode et de lingerie, qui était en ligne avec nous. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont contactés au 39-21.
Europe 1.
Il est 19h45. Dans un instant, la suite de votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Avec le fait culturel du jour à suivre, on va vous emmener dans les coulisses d'un déménagement extraordinaire, le déménagement des œuvres du Louvre qui rejoignent un nouveau centre de conservation.
Et puis dans un instant, vous allez découvrir le titre de la playlist de 18-20. Vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Sébastien Krebs, votre grand journal du soir, c'est aussi la culture au sens large. Dans un instant, on va parler exposition, mais avant cela, c'est la musique avec la playlist du 18-20. Alors, qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir, Sébastien ?
On écoute le nouveau single de la chanteuse franco-nigériane Asha Good Thing. I'm not afraid to be on my own. Now I am so fine with this. Le nouveau single de la chanteuse franco-nigériane Asha, ça s'appelle Good Thing, nouvel album aussi. Un nouvel album qui sort le vendredi 11 octobre, c'est dans 2 jours. Et Asha partira en tournée dès le mois de novembre avec une date parisienne le 16 décembre au Trianon.
Et prochain titre dans la playlist du 18-20, ce sera demain à la même heure. La culture au sens large, et maintenant Sébastien Krebs. On part à la découverte d'un déménagement. On va parler de ce déménagement assez extraordinaire. 250 000 œuvres du Louvre vont être déplacées.
Et je salue Diane Chenouda du service culture d'Europe 1 qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Diane.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Vous allez nous emmener en coulisses, nous raconter les coulisses de ce déménagement assez hors du commun. Et en ligne avec nous, le directeur délégué du centre de conservation du Louvre. Bonsoir Brice Mathieu.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Anissa le disait, un déménagement extraordinaire parce que ce sont les réserves du musée du Louvre, le musée le plus visité au monde, qui vont être déplacées vers un nouveau centre, donc à Liévin, dans le Pas-de-Calais. D'abord, un mot avec vous, Brice Mathieu. C'est évidemment une opération très délicate de déplacer autant d'œuvres.
C'est en effet quelque chose qui se prépare très en amont. Ça fait 3 ans nous, qu'on est en train de préparer cet énorme transfert de 150 000 objets d'abord, qu'on fera en 60 semaines à partir du 28 octobre. Donc opération exceptionnelle avec plus de 200 camions qui vont partir de Paris. En effet, donc c'est beaucoup de préparation et beaucoup de travail depuis de nombreuses semaines.
Pourquoi il faut déplacer ces œuvres en dehors du centre de Paris ?
Parce que aujourd'hui, elles sont exposées au risque inondation, au risque cru de la Seine. On a eu une chaude alerte en 2016, mais on le savait. On a chaque année un risque sur 100 que la Seine déborde et donc vienne inonder outre Paris, surtout nous, ce qui nous concerne, les réserves qui sont situées en zone inondable.
Alors restez avec nous, Brice Mathieu. Diane Chenouda est ici en studio. Diane, vous avez pu visiter en avant-première ce nouveau centre. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu là-bas.
Oui, j'ai eu cette chance. Eh bien, écoutez, c'est un bâtiment flambant neuf, de verre et de béton, qui est ultra moderne, qui est presque invisible. C'est très discret, comme ça se fond dans le paysage, avec un toit en pente. C'est un bâtiment semi-enterré pour mieux isoler en fait les œuvres à la fois de la chaleur et du froid. Et à l'intérieur, comme ça, on rentre. Et alors, il y a un espèce de boulevard des œuvres. Ils appellent ça le boulevard des œuvres, évidemment pour déplacer les œuvres des réserves jusqu'aux ateliers de restauration. Et alors, il y a 6 grandes réserves. Elles sont immenses. Il y en a qui font jusqu'à 6 mètres de haut, qui peuvent donc accueillir des colonnes grecques, etc.
Enfin, ouais, je disais 14 000 mètres carrés. Ça donne le vertige, c'est immense. 27 kilomètres de rayonnage.
Oui, absolument. Oui.
Et vous me disiez que chaque œuvre a sa place. Déjà, avant même d'arriver sur place, tout est déjà prévu.
Oui, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail considérable. Ces dernières années, ils ont réussi, tous les conservateurs, le Louvre, a réussi effectivement à chaque département à déterminer une place pour chaque œuvre selon les époques. Elles sont classées selon les époques. Donc on peut en mettre une petite à côté d'une grande. Et ça a été fait à la main. Alors bien sûr, c'est via l'ordinateur. Mais il n'y a pas de logiciel qui a créé ça. Et ça, tout a été fait par l'esprit de l'homme. Donc, il y a aussi les réserves des peintures que j'ai pu visiter, avec évidemment des grillages, un système de grillage à la verticale pour pouvoir bien sûr accueillir les cadres et les peintures.
Brice Mathieu, une précision. On imagine ça un peu comme un hangar, mais j'imagine que ce n'est pas un hangar comme les autres quand on parle d'œuvres qui ont une immense valeur.
Alors nous avons fait le choix de faire appel à un très grand architecte en effet pour faire ce bâtiment. Donc c'est Roger Sirk Harbour & Partners, donc une très grande signature mondiale de l'architecture. Du coup, on n'est pas sur un hangar comme on peut imaginer, on n'est pas dans un hangar Amazon, pas du tout. On est vraiment sur un bâtiment qui a été dessiné et conçu d'une manière absolument remarquable et qui esthétiquement donne l'impression d'une cave très améliorée avec un système de voûtes, de poteaux, de poutres, de murs préfabriqués. Donc tout ça donne une unité, une facilité de lecture du bâtiment.
On ne manipule pas les œuvres avec n'importe quelle grue ou chariot élévateur. À mon avis, il faut faire un peu attention, j'imagine.
Alors on fait attention, mais le principe de manipulation des collections est en fait strictement le même que n'importe quelle manipulation d'objets lourds, sauf qu'en effet, on n'est pas dans une recherche de productivité, donc on prend le temps de ranger correctement chaque œuvre dans son emplacement, mais c'est vraiment les mêmes usages, les mêmes machines qui permettent de manipuler les collections, sauf qu'on est sur une approche extrêmement précautionneuse, évidemment.
Il y a un aspect aussi, Diane, c'est la qualité de l'air dans le bâtiment, il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité, j'imagine que tout ça est très contrôlé.
Oui, c'est très contrôlé, bien sûr. Alors ce qui est formidable, c'est que ce béton permet d'isoler magnifiquement les œuvres. C'est-à-dire que quand il y avait la canicule, il faisait 40 degrés, elles étaient conservées à 20 degrés, sans climatisation. Et donc oui, je pense que ça, c'est très bien contrôlé, évidemment, pas trop d'humidité. Vous me direz peut-être rappeler le chiffre qu'il faut pour l'humidité, Brice.
Oui, alors ça dépend en fait des collections qu'on conserve. On a des différentes températures et différents niveaux d'humidité relative en fonction des œuvres qui sont conservées. Donc les bornes, les limites qu'on fixe, c'est entre 40% et 60% d'humidité relative pour les éléments les moins fragiles, donc les éléments souvent à base de pierre. Donc comme les colonnes que vous citiez tout à l'heure. Et pour les œuvres un peu plus sensibles, donc ce qu'on appelle les œuvres organiques, donc qui sont issues de matériaux vivants, donc tout ce qui est à base de toile, de bois, là on est sur des bornes un petit peu plus resserrées, entre 45 et 55% d'humidité relative. Mais donc le but pour nous est d'être dans ces bornes, mais surtout de garantir une stabilité. On ne peut pas passer de 45 à 55 en 2 ou 3 heures. Il faut vraiment avoir une ligne, une courbe extrêmement plane. C'est ça qui garantit la meilleure conservation des collections.
Brice, Mathieu, un mot du déménagement, parce que c'est quand même assez dingue à déménager toutes ces œuvres. Ça se fait avec une escorte. J'imagine qu'on ne déplace pas ça aussi facilement.
Alors non, on a un principe de discrétion que tous les musées utilisent. Le but, c'est de passer, de se fondre dans le paysage. Donc pas de principe d'escorte, mais un principe vraiment de discrétion absolue.
D'accord, un camion normal.
Un camion normal, un camion banalisé. Et après, nous, on a beaucoup de travail de l'ombre pour pouvoir garantir la sécurité de tout ça. On ne sort pas en sirène hurlante quand on part du Louvre.
Ça va quand même changer la vie de vos conservateurs d'aller jusque là-bas dans le Pas-de-Calais. J'imagine que pour eux, c'est quand même moins pratique que de travailler dans les sous-sols du Louvre à Paris.
Alors c'est évident qu'on ne transfère pas des réserves à 200 km sans conséquence sur la manière de travailler pour les conservations qui sont aujourd'hui à Paris. Donc tout ce travail-là, toute cette anticipation, parce que ça fait 6 ans que le projet est lancé, moi ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet, et donc ça fait 3 ans que je travaille sur comment limiter au maximum les effets néfastes de cette distance. Donc on a travaillé avec les conservations pour pouvoir voir comment faciliter ces déplacements. Il est évident qu'on ne gommera jamais ces 200 km. Ils existent, mais derrière, on peut mettre en place toute une série, toute une organisation qui permettra de travailler dans les meilleures conditions malgré la distance.
Et on comprend que les œuvres seront mieux protégées en étant dans ce nouveau bâtiment flambant neuf dans le Pas-de-Calais que dans les sous-sols du Louvre où elles étaient exposées donc au potentiel cru de la Seine. Merci beaucoup, Brice Mathieu, d'avoir été en ligne avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur délégué du Centre de conservation du Louvre. Merci aussi à Diane Chenouda qui est allée le visiter pour nous. Merci, bonne soirée. Et on reste dans la culture avec la musique dans un instant. Bonsoir Émilie Mazoyer.
Salut Sébastien Krebs.
J'ai failli vous appeler Isabelle, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être à cause
d'Isabelle.
Demain,
je vous appelle Michel.
Qu'est-ce que vous avez ce soir en stock?
C'est une découverte. C'est une jeune femme hyper talentueuse. Elle s'appelle Mutoni Ndonga. Elle vient de Nairobi, au Kenya. Et c'est un petit peu. Allez, je vais être folle, mais tant pis, je dis la Beyoncé du Kenya.
Ah ouais?
Ah ouais, c'est ça.
Je l'adore. Avec aussi un petit grain de voix parfois à la Rihanna et des textes super intéressants puisque son nouvel album qui est sorti au début de l'année, elle vient nous voir maintenant parce qu'elle est en tournée en ce moment en France, s'appelle She, Elle, et chaque chanson raconte l'histoire d'une femme. Elle est hyper intéressante. Mutoni Drummer Queen, c'est notre invité ce soir.
Et bien c'est parti pour musique juste après les infos de 20h et jusqu'à 22h avec vous Émilie Mazoyer. À demain avec Nathalie Lévy. Belle soirée.
On vous retrouve à 18h. À demain, c'était Sébastien Krebs sur Europe 1.